L'involution, ça veut dire l'involution, c'est l'involution, ça veut dire tourner. L'involution, c'est l'involution, ça veut dire l'involution, c'est l'involution, ça veut dire l'involution, c'est l'involution, ça veut dire tourner. L'involution, c'est l'involution, ça veut dire l'involution, c'est
le silence.
L'involution, ça veut dire l'involution, c'est l'involution, ça veut dire tourner.
Alors que des gens crèvent de faim, nous avons tout en trop. Nous avons tout en trop. Alors que des gens crèvent de faim,
l'involution, c'est l'involution, ça veut dire l'involution, c'est
le silence.
L'involution, c'est l'involution, ça veut dire l'involution,
c'est faire le contraire des autres.
L'involution, ça veut dire l'involution, c'est l'involution, ça veut dire tourner. L'involution, c'est l'involution, ça veut dire l'involution, c'est
le silence.
Révolution, c'est Radio Libertaire 89.4. Bonjour, un peu d'air frais, l'atelier du documentaire. Nous allons parler aujourd'hui de la souffrance psychique à l'intérieur et à l'extérieur des établissements psychiatriques, à travers les villes, à travers nos documents sonores. Amanda et Rougi sont allés à la rencontre des infirmiers de l'hôpital psychiatrique Pierre Janet, qui se trouve dans la ville du Havre, en Normandie, pour savoir comment les patients s'intègrent dans la ville, comment les infirmiers font face à leurs souffrances et aux conditions difficiles de leur travail. Du côté des patients, Alexandre a rencontré deux jeunes qui nous parlent de l'impact de leurs troubles psychiques sur leur vie quotidienne. Nous allons terminer l'émission avec le producteur Diogo Barry pour parler du court-métrage « La couleur de l'esprit » réalisé par Mariam Cissé. Et cette fiction raconte une journée dans la vie d'un jeune schizophrène en Guinée. Et commençons tout de suite par les patients. Nous allons écouter la rencontre d'Alexandre à Paris avec un jeune atteint de dépression et il nous raconte comment son état mental influence sa vision, sa souffrance et ses relations sociales.
Bonjour Paris, est-ce que tu peux te présenter pour nous ?
Bonjour, je m'appelle Paris, j'ai 24 ans. Je suis né à Paris, j'y ai grandi, j'ai vécu à l'étranger, je suis revenu à Paris. Sur le plan social, professionnel ou personnel, je me cherche.
Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un petit peu ton vécu et ce que tu penses des problématiques que sont celles de l'exclusion sociale et tout cela dans le cadre des problématiques de santé mentale. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours, qui tu es un petit peu sur ce plan-là ?
Je dirais que j'ai toujours eu le sentiment d'avoir, si je me comparais socialement aux autres, dans toutes sortes d'interactions, un rapport assez singulier au monde, à mon environnement, aux personnes, et conséquemment une certaine difficulté à agir, à me comporter de la manière attendue, ou en tout cas d'une manière jugée adéquate, si tant est qu'il y en ait une. Je crois qu'en raison de ce rapport singulier au monde, mêlé d'une assez forte sensibilité, plein d'éléments matériels très concrets de ma vie se sont progressivement cristallisés en une assez forte dépression nerveuse en moi, dont je souffre depuis plusieurs années, qui a eu naturellement des conséquences très, très concrètes et matérielles sur ma vie, dans tous ces aspects. Mais qui surtout me hante au quotidien, représente un poids pour moi qui me colle à la peau et dont finalement je suis la victime ou que je dois porter presque constamment.
Et de ce point de vue-là, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience vécue, de ce que toi tu ressens être, comme tu le dis, l'exclusion sociale ?
Je dirais que de mon point de vue, l'exclusion sociale est surtout une exclusion vécue. Si on cherche à définir, à mettre des mots dessus, c'est parce qu'on l'expérimente personnellement. En tout cas, c'est comme ça que je l'appréhende, sans doute parce que je me sens directement concerné, plus que comme un phénomène dont pourraient parler des journalistes, un phénomène de société, telle ou telle personne est exclue en raison de différents objectifs, ceci, cela. Je dirais que l'exclusion sociale, je la vis d'abord comme mon rapport au monde de manière générale, de manière purement subjective. Je me sens exclu socialement parce que j'ai le sentiment que ma situation psychologique, peut-être même psychiatrique, rend la compréhension des règles de ce qui doit être fait extrêmement difficile pour moi. Et c'est cette sensation de ne pas comprendre les règles sociales, les règles d'interaction sociale, la manière d'habiter la société, qui me donne le sentiment d'être exclu socialement, d'abord. C'est d'abord le fait de ne pas arriver à comprendre l'environnement qui m'entoure, avoir le sentiment qu'il y a autour de moi une grande uniformité sociale, des gens qui comprennent, qui savent comment interagir, qui savent comment se comporter. Parce qu'il y a uniformité, ça veut dire qu'il y a des règles, mais en même temps, je ne comprends pas ces règles. Donc déjà, c'est ce sentiment-là, c'est de ce point de vue-là que j'aborde l'exclusion sociale, et ce depuis toujours, enfin aussi longtemps que... depuis aussi longtemps que la conscience m'a été donnée. Tu es en décalage dans plein d'aspects différents, et quoi que tu fasses, finalement ça ne sert à rien d'essayer, parce que in fine tu es voué à la solitude, tu es voué à l'incompréhension, tu es voué à la violence qu'elle induit. Le résultat sera le même, le décalage sera toujours là.
Et du coup, avec ces sentiments gris, ces sentiments bleus, comme on dirait en anglais, est-ce que parfois tu fais le choix volontaire, du coup, de t'exclure socialement, que ce soit même simplement en t'enfermant dans les périodes, les mois les plus compliqués ?
Et est-ce qu'on choisit ? Faut d'abord observer de manière très mécanique et élémentaire que dans les cas de, je veux dire, que la dépression nerveuse se manifeste aussi par, et en tout cas souvent, et ça a été mon cas, ça l'est pas actuellement, mais ça l'a été il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Ça se manifeste de manière très très concrète et physique par une impossibilité de se mouvoir et de trouver la force vitale pour se bouger les fesses et simplement sortir de chez soi. Donc de manière déjà très concrète, on s'exclut socialement, puisque jusqu'à preuve du contraire, une société c'est au minimum deux personnes. Je dirais que le gros problème vient du fait qu'il y a un décalage, un rapport au monde décalé, mais en même temps, il y a une sensibilité qui vous... Donc un rapport au monde qui est quand même là. Donc une impossibilité de se lier au monde, mais en même temps une volonté de le faire. Donc forcément, on finit par vivre à travers le regard des autres, à travers le regard de la société, de l'environnement, du moins tel qu'on le perçoit, et en fait on le perçoit jamais d'ailleurs clairement, et d'ailleurs toujours de manière distendue. On vit à travers le regard des autres, mais on voit, ou en tout cas on perçoit que ce regard des autres ne nous est pas favorable, ne nous valide pas, donc on est malheureux, donc on se déteste soi-même. Et il y a quelque chose d'une presque de masochiste dans la dépression, en tout cas telle que je la vis, c'est un phénomène inconscient et conscient à la fois, d'auto-flagellation, d'auto-exclusion sociale. On va, alors je ne sais pas si on se laisse dépérir, si on cherche à accélérer le processus de destruction, si on essaye de se faire le sauveur du monde en le débarrassant du nuisible que nous croyons être, mais on se punit encore plus, on s'isole encore plus. Alors la réponse à ta question me semble définitivement oui.
Est-ce que tu pourrais nous dire ce que le fait d'être déprimé en tant qu'individu peut induire comme problématique, par exemple au niveau des études, au niveau du travail? Est-ce que c'est accepté? Est-ce que c'est respecté quelque part? Et est-ce que ça t'a impacté d'autant plus dans ton parcours social quelque part, que ce soit celui des études ou du travail, que d'avoir justement des périodes où tu es enfermé par toi-même?
Fatalement ça impacte. On perd toute force vitale, toute envie de se bouger les fesses et d'accomplir la plus simple des tâches. Donc fatalement ça affecte tes études, ça affecte ta vie professionnelle. J'ai eu des périodes d'enfermement, enfin de confinement littéralement, hein, d'autoconfinement. Oui, j'ai eu une période notamment lorsque la dépression s'est manifestée de façon particulièrement violente. Après une période assez intense d'études, ça n'était pas lié à ces études, je pense juste que la soupape montait et qu'à un moment tout a explosé. Je m'étais enfermé dans une chambre pendant 8 mois et au point d'éteindre mon téléphone et de ne prévenir personne de mon isolement. En même temps, je ne suis pas à plaindre, enfin je n'étais pas à plaindre à ce moment-là sur le plan matériel, contrairement à beaucoup de dépressifs, puisque j'ai bénéficié du soutien matériel de mes parents. Je vivais chez ma maman qui prenait un soin de... précieux de moi. C'était vraiment une surveillance de tous les instants. Cela dit, lorsque la dépression nous affecte, comme c'est le cas maintenant, par vague, elle est tout le temps présente. C'est vraiment une ombre que l'on traîne derrière soi et en soi en permanence, mais parfois se manifeste de manière un petit peu plus prégnante. Vous vous excluez pas totalement, vous avez des activités quotidiennes qui sont permises justement par ces temps de latence. Et donc vous vous engagez, ceci, cela, et puis voilà que la dépression frappe à nouveau à votre porte, ou en tout cas décide de nouveau non plus seulement de vous suivre, mais d'entrer dans votre être et de vous hanter pour quelques jours, pour quelques semaines, pour quelques mois. Et fatalement, le monde extérieur ne change pas, vous avez toujours le même emploi si vous êtes engagé, vous suivez toujours le même parcours académique si vous êtes engagé dans des études. La réaction est assez... c'est sans doute emblématique de notre époque. La réaction est toujours d'apparence compréhensive et bienveillante. On va vous dire oui, je suis désolé. J'ai jamais entendu une personne me dire que c'était honteux d'être dépressif. Ça va plutôt être des mots de vos professeurs, de vos collègues, de vos boss ou que sais-je, des mots d'encouragement. De soutien, mais c'est un soutien de façade et d'apparence, puisque fatalement la réalité matérielle se rappelle à nous, et in fine l'examen aura toujours lieu, in fine le rapport devra toujours être rendu. Je veux dire, in fine le monde est le même, et concrètement vous vous noyez dans votre brouillard intérieur, mais enfin l'extérieur est toujours là, et donc il y a un moment où bah oui, concrètement, si vous avez pas, si vous souffriez de dépression, vos professeurs seront compatissants peut-être, mais enfin, votre examen, vous le passerez mal. Vos collègues, vos boss seront compatissants, et puis petit à petit, le seront de moins en moins, et jusqu'à ce que ça ait des conséquences matérielles. Je veux dire que c'est pas très compliqué d'être compatissant au début, d'écrire un mail bienveillant ou de prononcer une parole bienveillante qui n'engage à rien, mais la réalité matérielle se rappelle rapidement à nous, et le fait est que vous ne vous êtes pas conformé matériellement à ce qui était convenu, aux attentes. Et donc petit à petit, vous vous retrouvez, on vous enlève une opportunité puis une autre, et plus rien.
Enfin, quand tu t'es reclus pendant 8 mois,
oui.
T'étais en études ?
J'étais en études.
De quoi ? En études de quoi ?
En études de médecine.
Et est-ce que tes professeurs, ils t'ont contacté du coup à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a eu un suivi administratif vis-à-vis de la question ? Et surtout, est-ce que au sortir des 8 mois, Tu étais encore en médecine, ou en fait c'est un moment classique qui a du coup quand même coupé quelque chose dans ton parcours et qui t'a coupé de gens, et etc.
Pas l'ombre d'un suivi, du reste c'est le format des études de médecine et singulièrement de la première année puisque je commençais un parcours de médecine après 2 années de prépa. Non, en plus la fac de médecine à ce moment-là se faisait encore à distance, c'était juste après la pandémie. Donc il y avait finalement aucun lien concret. Je veux dire, c'est la seule chose qui m'arrivait, c'était une sorte de blitzkrieg de mail. Et puis un moment où on s'effondre, il y a un moment où juste on arrête d'ouvrir la boîte mail et fatalement l'examen a passé et j'étais reclus. Donc en soi la fac de médecine, j'aurais pas vous nommer un professeur, je saurais pas vous nommer un camarade. Donc il y avait pas de suivi, mais il y avait pas non plus de ma part de lien social entretenu de quelque façon que ce soit. C'était plutôt quelques bons amis qui n'étaient pas prévenus, qui se sont beaucoup inquiétés pour moi et que je n'avais pas la force ni même la pensée de contacter. Et d'ailleurs je le regrette aujourd'hui, je le regrette profondément, mais je crois qu'il n'aurait pas pu en être autrement. Mais finalement La vie a repris son cours. Oui, il n'y avait pas de... La vie a repris son cours, ça a marqué une cassure, mais enfin, il n'y avait pas vraiment de... Il n'y avait rien de concret, il n'y avait pas de grand projet bâti dans mon existence à ce moment-là pour que je puisse dire qu'il y avait un avant et un après. Pour que je dise que quelque chose de très fort, de très solide, des fondations, ou alors même un projet abouti, s'est retrouvé totalement effondré par mon isolement. Finalement, j'engageais pas grand-chose, matériellement en tout cas.
Selon toi, de deux questions. L'une, qu'est-ce qui te fait sentir que tu es inclus dans des moments sociaux? Et qu'est-ce qui te soutient? Qui et quoi te soutiennent face à ces problématiques que sont celles de la dépression, mais celles de l'exclusion qui vient avec? Qui est avec toi dans ces moments?
Quand est-ce que je me sens inclus? Est-ce que je me sens vraiment inclus? Enfin, disons que c'est un faux sentiment d'inclusion parce qu'il est vécu par une marque d'approbation extérieure, quelqu'un qui vous aura jeté un regard qui vous apparaît bienveillant, qui aura répondu par un sourire ou un rire apparemment sincère à une blague que vous aurez faite, qui vous aurait félicité pour ceci, pour cela. Est-ce que c'est un sentiment d'inclusion vraiment vécu ou c'est juste l'impression que l'on est inclus parce qu'on en a observé les symptômes? Ou en tout cas qu'un observateur compétent vous a confirmé que vous l'étiez. Donc non, je pense que c'est pas un faux sentiment d'inclusion. Je crois en revanche que ce rapport singulier au monde, ce sentiment de décalage, et aussi cette sensibilité, donc malgré tout un désir de se connecter, une capacité à se connecter, même si on ne comprend pas les codes, on ne comprend pas les règles, mais en tout cas... Oui, au moins à se connecter émotionnellement, fait que l'on rencontre tout de même des personnes singulières ou qui entretiennent un rapport singulier au monde, de savoir que des amis, tout simplement, ont le sentiment d'être en décalage, mais arrivent, de mon point de vue, à se mettre dans des situations de conformité, on va dire, sociale, des situations enviables, qui arrivent à entreprendre ou à réaliser telle ou telle chose, ou simplement de savoir que des personnes comme ça existent et que je ne suis pas seul et qu'elles existent dans plein de configurations différentes, dans toutes les tranches sociales, économiques, politiques de la société, et donc qu'une infinité de possibles existent, même pour des personnes comme nous, est extrêmement réconfortant.
Quels sont des moyens utiles que tu peux mettre en place justement pour contrer partiellement, momentanément ou au mieux cette exclusion vécue?
Pardon de répondre d'abord par la négative. Je crois déjà qu'il n'y a pas de solution, de mesure extérieure à prendre. Je pense pas que ce soit une affaire d'éducation, je pense pas que ce soit une affaire de tolérance, d'apprendre à accepter l'autre, machin, ceci, cela. Je m'embarrasse de moins en moins de l'idée qu'il est possible de changer le cœur des hommes, ou que sais-je. Enfin, du reste, je n'ai pas la prétention de savoir ce qui doit être fait, comment il faut agir, comment il faut penser, j'en ai absolument aucune idée. Je suis qu'un être humain parmi des milliards d'autres. Donc je ne pense pas qu'il y ait de solution extérieure, je pense que c'est plutôt un travail sur soi. Je pense que la lecture de certains penseurs, je t'en pense que certaines discussions, je pense aussi que l'exposition aux difficultés et aux situations sociales embarrassantes vous permet de développer un nouveau rapport, simplement peut-être d'apprendre à vivre avec ce décalage et de développer peut-être un rapport que certains qualifieraient de cynique, mais que pour ma part je qualifie simplement de tragique, c'est-à-dire accepter que tout est possible, que tout peut potentiellement exister, ne pas se laisser surprendre par des situations, bon, je me sens en décalage, ou la personne réagit comme telle, très bien. Arriver à développer petit à petit, à force de réflexion, à force d'expérience, à force de chute, à force de... d'arriver à développer une sorte de détachement émotionnel. C'est quelque chose que je ne parviens pas à faire encore entièrement, mais que je parviens à faire de plus en plus. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver et qu'il y a sans doute quelque chose aussi d'excitant dans ce périple-là, qui in fine donne aussi un sens à la vie. Ça me fait penser à la phrase de Cyrano, c'est inutile, je le sais, mais on ne se bat pas dans l'espoir de succès, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile.
Merci Paris.
Merci à toi.
Radio Libertaire 89.4, un peu d'air frais, l'atelier des documentaires, et nous poursuivons notre émission au sujet de la souffrance psychiatrique dans la ville. Direction Le Havre, Amanda et Rougi sont allés voir comment les patients de l'hôpital Pierre Janet s'intègrent au quotidien dans cette ville normande. Et elles ont pénétré l'hôpital en compagnie des infirmiers du syndicat Sud Santé pour découvrir les conditions impossibles de leur travail, pour découvrir ce qui se passe derrière les murs et derrière les apparences.
Bonjour Rougi.
Bonjour Amanda.
Alors, tu viens d'emménager au Havre, à côté de l'hôpital Pierre Janet. Tu t'es posé des questions quand t'es arrivée. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la surprise que tu as eue?
Oui, en fait, je suis arrivée au Havre il y a maintenant 3 mois. Je savais que j'emménageais à côté d'un hôpital qui avait une unité psychiatrique parce que c'est un hôpital un peu historique dans la ville et tout le monde connaît Pierre Janet. Mais n'étant pas originaire du Havre, j'avais pas du tout de référence sur ce que ça induisait, enfin ce que ça pouvait être. Et puis, très rapidement, dans le quotidien, à n'importe quelle heure de la journée, je me suis rendu compte qu'il y avait une population de gens qui avaient des troubles mentaux et qui évoluaient dans la ville, et librement et simplement, dans la rue, chez les commerçants. Et ça m'a questionnée parce que le ratio de gens atteints de troubles et de gens qui ne l'étaient pas était presque de... moitié-moitié. Et donc j'ai cherché à en savoir un peu plus.
Toi, tu habites dans une rue un petit peu commerçante. Le magasin juste à côté de chez toi a une clientèle qui vient justement, enfin, qui sont ces patients de l'hôpital Pierre Janet.
Ouais, c'est ça. Donc je me suis un peu présentée auprès des boutiques autour de chez moi. Et précisément dans cette boutique, il y a une friperie qui propose des petits prix en fait sur des habits un peu du quotidien, hommes et femmes. Et voilà, la discussion est venue assez rapidement sur qui vient. Et immédiatement, le commerçant m'a fait part de clients qui viennent beaucoup de l'hôpital, qui ont un bon accueil aussi auprès des commerçants. Et ça, je trouve que c'est aussi une caractéristique assez inédite. Enfin, c'est quelque chose que je découvre aussi. Et je le découvre avec autant d'étonnement que ça se passe bien, quoi. Alors qu'on n'a pas forcément une connaissance, en fait, de gens assez lourdement atteints. C'est des gens qui portent vraiment les stigmates de la maladie. Hein. C'est pas anodin. C'est des gens qui déambulent quelquefois avec difficulté, qui parlent seuls, qui peuvent être inquiétants pour des gens qui connaissent pas ce type de profil. Et je me rends compte que, ils sont tout à fait intégrés. Ça fait peur à personne en fait. Et je me suis surprise d'ailleurs quelques semaines après être arrivée à promener mon chien un soir tard, même dans la nuit. Je vous passe les détails du pourquoi promener mon chien dans la nuit. Enfin, elle demandait à sortir. Et donc, je suis sortie. Il est au plein cœur de la nuit et j'ai entendu des cris provenant de l'hôpital, parce que l'hôpital est vraiment tout près de chez moi. Des cris de femmes qui... il y avait une grosse angoisse nocturne. On sentait qu'il y avait un truc lourd, un truc assez lourd qui se passait à l'hôpital. Et moi-même, qui ne connais pas la maladie, je n'ai pas été inquiétée par ça. Assez rapidement, on peut être détendu par rapport à des situations qui, je pense, il y a quelques mois encore, auraient pu m'inquiéter. Je me rends compte qu'assez rapidement, on peut apprivoiser en fait la différence liée à la maladie mentale. Et je trouve ça intéressant.
Et le coiffeur aussi, hein.
Mon compagnon est allé se faire coiffer vraiment chez la petite dame du coin, coiffeur visagiste, homme et femme, vraiment un coiffeur de quartier. Et puis il y a trouvé deux mamies qui venaient faire des bigoudis, la teinture. Et une jeune femme de Pierre Jeannet est arrivée avec des cheveux verts et elle demandait si elle pouvait avoir des mèches roses. Et là, avec beaucoup de... naturel, la coiffeuse lui a dit « Oh non, je suis désolée, je n'ai pas de rose en ce moment, reviens la semaine prochaine. » Et les mamies ont dit « Ah, c'est beau le rose !» Enfin bon, vraiment, c'était très sympa, quoi. C'était très simple, très sympa. Alors que la jeune femme était très différente quand même, hein, physiquement, dans sa demande. Mais c'était joyeux, c'était marrant, c'était drôle, c'était sympathique. Et ça fait chaud au cœur. Et de les voir dans la ville comme ça, et de se dire que c'est possible, que ça se passe bien, c'est quand même très réjouissant.
Toi, t'as pas encore eu à communiquer avec eux, à avoir des échanges ?
Oh ben si, bien sûr. Alors j'ai un chien, vous avez compris. Donc souvent, je me fais arrêter par des gens qui ont envie de caresser mon chien, qui demandent son nom, qui l'embrassent. Si, bien sûr. Si, on est en contact, des gens qui te demandent une clope, du feu, qui te parlent du bus, du beau temps, ou qui ont un commentaire à faire sur le chien. C'est vrai que d'avoir un chien, ça force un peu les rencontres, si. Voilà, ça se passe bien.
Bonjour Anne, donc là on est devant l'entrée de l'hôpital Pierre Jeannet où tu travailles.
Oui, bonjour, donc on est exactement pile devant l'entrée de Pierre Jeannet où il y a les urgences dès l'entrée pour que les patients puissent accéder beaucoup plus facilement et non pas traverser tout le parc pour ne pas être trop stigmatisés non plus. C'est juste à l'entrée et ça reste discret. On a aussi le bâtiment des consultations juste de l'autre côté et on a aussi à ce niveau-là les hôpitaux de jour, donc on a les accueils. Et dans le reste de l'institution, là, on va trouver les services d'hospitalisation qu'on appelle les pavillons.
Alors, toi, tu travailles là par là ?
Sur le bâtiment d'administration, mon hôpital de jour est à ce niveau-là.
Ça consiste en quoi ? Tu peux peut-être nous décrire ta journée, là, par exemple, aujourd'hui ?
Alors, ma journée aujourd'hui, accueillir les patients dès 9h. Ça ouvre à 9h, mais certains attendent dès 8h devant la porte. On les accueille, il y a un accueil petit café qu'ils font eux-mêmes, qu'ils doivent gérer, laver les verres, préparer le café, enfin, comme tout un chacun, hein, la vraie vie tous les jours. On les entre administrativement. Parce qu'on fait les entrées nous-mêmes en tant qu'infirmière. On distribue les médicaments pour ceux qui en ont. On prépare les piluliers avec eux pour ceux qui ont besoin. On va gérer tout un tas de choses. Les appels des tuteurs, les appels des différents médecins, consultations et toutes ces choses-là. Les entretiens médicaux, les entretiens infirmiers aussi. Proposer des activités. Moi, ce matin, je les ai emmenés pour faire une marche dans la ville. Donc, le but de mon atelier avec eux, c'est de les faire découvrir la ville qu'ils ne connaissent pas, si ce n'est les grands axes. Et comme ça, on voit plein de petites rues. Voilà. On a un objectif. Début juin, on fait la course de l'Amazone. C'est une course en faveur du cancer du sang.
Et ça va être au Havre aussi, hein.
Oui, c'est au Havre et ça fait la troisième fois que je le fais avec eux.
Et alors, les patients que tu reçois, c'est des patients qui vivent dans cet hôpital ou qui viennent de l'extérieur ?
Ce sont des patients qui vivent à l'extérieur. Ils ont leur logement ou leur foyer, des structures adaptées, mais ils ne sont pas hospitalisés à temps complet.
Et pourquoi ils viennent du coup passer la journée avec toi ?
Mais parce que c'est trop compliqué pour eux de rester tout seuls chez eux. Ils risquent d'avoir une recrudescence de leurs troubles, de ne plus sortir, d'inverser leur rythme aussi au niveau jour-nuit, de ne pas prendre les traitements, de ne pas manger, ou alors de passer la journée à manger devant la télé. Enfin, tout ce qu'il peut y avoir de vraiment s'enfermer, s'isoler. La pragmatisme, c'est déjà très compliqué pour les patients. Mais si on les laisse chez eux, bah, c'est fichu, quoi. Ça rythme leur journée, ça les oblige à faire quelque chose. Ils sont attendus. Et nous, au passage, on propose des activités, mais on évalue à quel niveau ils en sont et s'il y a besoin de recadrer, de réhospitaliser, d'adapter un traitement. Parce que, bah, effectivement, la maladie, elle est toujours fluctuante.
Donc souvent, c'est des personnes qui étaient hospitalisées à l'intérieur, enfin qui étaient là pour plusieurs mois.
Oui, la plupart des patients ont été hospitalisés forcément plusieurs semaines. On ne parle plus de mois maintenant, on parle de semaines. Hein. Malheureusement, on est passé sur une psychiatrie express, hein, on manque de lits. Hein. Donc évidemment, bah, il y a un turnover très rapide, c'est le moins pire des patients qui peut sortir. Hein. Et nous, bah, effectivement, on fait un peu la suite.
Et ils ont l'obligation de venir donc à l'hôpital de jour ou pas ?
Non, c'est fortement conseillé. S'ils ne viennent pas, évidemment, on va forcément les appeler, voire faire une visite à domicile. Mais la plupart du temps, ce sont des patients qui ne sont pas en obligation de soins médicales, mais en même temps, nous, on n'a pas d'obligation de soins judiciaires. Et puis après, bah, chacun va un peu vaquer à ses occupations, parce qu'ils ont des ateliers. Notamment, on a un CA, c'est un centre d'activité et d'animation. Ce sont des activités thérapeutiques menées par des infirmiers et infirmières psychiatriques aussi. Chacun a son planning bien personnalisé.
Et alors, c'est quelle tranche d'âge ?
Dans les plus jeunes, c'est une petite vingtaine et j'ai jusqu'à 78 ans.
Ah, donc ils sont tous ensemble ?
Oui, tous ensemble, toutes pathologies confondues.
En général, ils habitent au Havre ?
Oui.
Et toi, tu fais quoi quand tu as une activité ? Tu fais quoi ? En dehors de bah, cette marche de temps en temps ?
Alors moi je fais de la Zumba avec les patients, hein. Je leur donne des cours de Zumba, donc ça permet de faire une activité qui est connue, qui est actuelle, qui plaît à beaucoup de monde, qui est festive, et que bah, pendant qu'on fait ça on ne pense pas à autre chose aussi, c'est aussi le but.
T'es infirmière mais tu fais de l'animation.
Ouais, je ne compte pas mes seringues et tout ça, non, je fais plein de choses.
Tu dois donner des médicaments ou gérer ça, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des contraintes aussi par rapport aux médicaments ou est-ce que c'est pas forcément assez libre ? Enfin, je sais pas.
Alors, le médicament reste important. Il faut qu'on ait un traitement de base parce qu'effectivement, on a essentiellement des patients qui sont psychotiques, donc il y a forcément un délire aussi derrière. Et s'ils ne prennent pas, il y a une recrudescence, donc il y a une réhospitalisation et qu'il y a aussi après une mise en danger de la vie à l'extérieur. L'autonomie, elle est forcément touchée. Alors effectivement, le traitement, ça reste une bonne base. Donc on a les piluliers que l'on gère, ou alors on a vu avec les infirmiers libéraux, on fait les injections retard. C'est des injections qui sont valables 3 à 4 semaines, où là effectivement, il y a un fond de traitement. Mais on fait aussi d'autres soins. Hein. On a aussi du soin technique, beaucoup moins qu'en service de soins généraux, on est bien d'accord. Mais on a toujours du soin technique de toute façon.
On incite fortement les patients à prendre des médicaments. Des fois, tu as l'impression que c'est obligé de les contraindre ou pas ?
Alors, pas à l'hôpital de jour, parce que c'est des gens qui sont déstabilisés. Ils ne le sont pas tous, parce qu'effectivement, des moments, on pallie. Mais on leur montre aussi que quand ils ne le prennent plus, qu'ils sont en rupture de soins, il y a cette recrudescence de délire et que ils se mettent en danger. Hein. On a des patients qui, quand c'est comme ça, redélirent, hein, c'est le cas de le dire. Et ils se mettent en danger en faisant tout et n'importe quoi, parce qu'ils adhèrent à leur délire à fond. Pour certains, le délire, il peut être très sympa. Pour d'autres, il est très, très difficile, quoi. Ils peuvent se mettre en danger. Ils peuvent aussi mettre les autres en danger. Donc, effectivement, notre but, c'est pas de vendre du médicament. De toute façon, ça nous donne rien, nous. Hein, ils vont les chercher en ville. Mais les patients eux-mêmes se rendent bien compte qu'ils ont besoin. Parce qu'ils disent, je suis plus angoissée et j'entends cette petite voix dans ma tête. Et cette voix, elle me dit du mal. Cette voix, elle me dit de me faire mal aussi. Et ils se rendent bien compte, c'est des gens qui ont compris aussi comment fonctionnait la maladie, d'où l'utilité du traitement.
Vous étiez en manque de personnel là aujourd'hui ou ça se passait, vous étiez bien ?
Aujourd'hui, nous étions 4 au lieu de 7. On a perdu un poste à notre hôpital de jour. Il y avait deux soignants qui étaient dans nos appartements communautaires que l'on gère. Donc, c'est des appartements où on a des patients. On a 13 personnes à gérer, donc sur 4 logements différents. Donc, on va les aider, on va les assister, on va organiser un peu leur quotidien à domicile, faire les courses, voir où ils en sont. Enfin, voilà. Et donc, j'avais deux soignants qui étaient à ce niveau-là. J'avais une collègue qui était restée à l'hôpital de jour pendant que j'étais partie avec mon groupe de patients faire l'atelier marche. Voilà, il faut avoir un petit peu d'ancienneté pour savoir gérer un service tout seul quand même, parce que ma collègue, elle était toute seule avec 25 patients quand même.
Mais alors, c'est où ces logements? À l'intérieur? Non.
Non, c'est des logements qui sont dans la ville, hein, qui sont des logements de droit commun, hein, donc n'importe qui peut louer un logement. Ça, c'est pour nos patients en général. Ces appartements-là, c'est des appartements que l'hôpital loue via une association de fonctionnement. Et donc, cette association resous-loue aux patients pour pouvoir les assister. C'est un palier avant de pouvoir prendre un logement seul.
D'accord. Alors peut-être on va peut-être marcher un peu dans la ville, puisque justement il y a, si j'ai bien compris, les patients qui sont à l'hôpital Jeannès sont aussi très intégrés dans la ville, dans ce quartier en tout cas.
Oui, ils sont très connus parce que, bah, effectivement, nous, on cherche toujours des logements pas très très loin de Jeannès, parce que c'est aussi des patients qui, même s'ils ne veulent pas venir, quand ils sont tout seuls à domicile, sont aussi très très angoissés la nuit. Et donc, d'avoir une proximité à l'hôpital, ils savent qu'ils peuvent venir aux urgences et avoir rien qu'un entretien avec une infirmière, voire un médecin, et repartir chez eux.
Et alors, tu disais aussi, par exemple, qu'il y avait un kebab dans le coin, une pharmacie, un certain nombre de lieux qui étaient habitués à recevoir les patients de l'hôpital.
Oui. Alors là, juste en bas, on a effectivement, en bas de la rue, on a là, sur la droite, un kebab.
Le kebab, c'est ce qui s'appelle, ce qu'on voit, la strada, c'est
ouais.
Ça?
C'est ça, c'est, il est assez récent. On avait avant, c'était une épicerie avant. Et voilà, nos patients faisaient beaucoup de chrome là-bas. Et,
c'est-à-dire
des dettes. Donc, ils avaient une ardoise. Et voilà, c'était dommage parce qu'effectivement, les tuteurs payaient quand même l'ardoise et ça mettait les patients en difficulté.
C'était quoi, des dettes par rapport à quoi?
Pour nos patients qui étaient addicts, c'était la bière ou les flashs d'alcool. Et ça, c'est quand même difficile parce que ça permettait aux patients d'avoir un accès, même si on limitait son argent sur sa carte bleue, sa carte de retrait, et ben, le patient avait quand même possibilité d'avoir de l'alcool à côté. Donc, ça, c'est compliqué. Là, un petit peu plus loin sur la droite, on a effectivement la pharmacie avec laquelle on travaille. Et le pharmacien, quand il y a besoin, nous appelle et on se débrouille, on s'organise. Il est capable de nous appeler s'il y a un souci.
Oui, c'est pas vous qui allez démarcher les commerçants pour voir un peu s'ils sont sympas ou pas?
Jamais. Absolument jamais. C'est à force d'y aller qu'on s'est rendu compte de comment ça fonctionnait tout bêtement.
D'accord. On continue? Je ne sais pas qu'il y a d'autres lieux.
Là, on est Maréchal Joffre, direction le rond-point. Et nos patients utilisent beaucoup cet accès-là. Donc, c'est l'accès du bus qui va du rond-point où ça peut desservir après vers la ville haute, où on a aussi des patients qui habitent, ou alors jusque vers l'hôtel de ville, où c'est quand même une concentration aussi de bus pour pouvoir repartir chacun chez soi. De l'autre côté, on a la Croix-Rouge aussi. Et c'est bien, ça permet d'avoir à s'habiller correctement.
Ah oui, c'est la Croix-Rouge qui vend des vêtements d'occasion.
Qui vend des vêtements d'occasion. Et donc, nos patients sont connus. Et voilà, ça se passe plutôt bien avec eux, quoi.
Donc, je ne sais pas, j'ai pris cette direction vers le rond-point, mais on aurait pu aller dans l'autre sens.
Alors, la direction du rond-point, oui, on a des patients qui vont habiter par ici, mais il y a aussi un café qui vend le tabac et qui travaille facilement avec nous, le Saint-Patrick, hein, qui, lui, reçoit les patients pour le petit café du matin et même les après-midi. Les patients se retrouvent là entre eux parce que c'est bien, c'est qu'ils créent aussi des liens. Quand on a des patients qui ont besoin de cigarettes, avec ce tabac-là, ça fonctionne bien. C'est qu'on a des bons de tabac envoyés par le tuteur et lui nous avance et se fait payer par le tuteur, mais ça se passe avec nous soignants. Et ça évite aussi aux patients de tout cramer d'un coup.
Ah, donc vous avez un contact privilégié avec le Saint-Patrick de ce côté-là?
Oui, 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 c'est...
D'accord. Et alors, tu disais, on va dire que les patients que vous recevez à l'hôpital de jour, c'est plutôt des psychotiques, c'est pas forcément des personnes, comme on dit, névrosées, qui ont eu un problème, une crise.
Non, on n'a pas franchement des névrosés. Hein. C'est le névrosé, oui, peut avoir besoin d'un soutien, mais dans ce cas-là, ça va plutôt être un soutien d'extra-hospitalier.
Quelqu'un qui fait une crise, mais ça peut, il peut être hospitalisé, du coup, il va où ?
Alors, il peut arriver aux urgences à Janet. Quelqu'un qui ne connaît pas, c'est alors les urgences à l'hôpital général qui va nous transférer à Janet, si c'est d'ordre psychiatrique. Après, le psychiatre va évaluer. Il y a souvent une période d'observation. On n'arrive pas aux urgences et dans 3 heures, on est dans un service. Il y a une période d'observation, il y a bien 24 à 48 heures, voire plus. Ça peut être un retour à domicile, ça peut être d'aller effectivement dans un pavillon d'hospitalisation à Janet, où là on estime qu'il y a vraiment besoin d'une prise en charge plus longue. Ça peut être quelque chose de plus léger, ça va être la psychiatrie, on va dire, plus légère avec le service Maupassant qui là est à l'hôpital général. C'est moins stigmatisant aussi parce que dans cet hôpital-là, il y a encore d'autres services de consultation, il y a de la rééducation et tout. Donc c'est moins gênant. C'est souvent sur les premières hospitalisations et c'est, comme je dis, la psychiatrie plus légère. Ça ne va pas être des gens qui peuvent être auto-hétéro-agressifs, ça ne va pas être non plus des gros suicidaires. Enfin, c'est la prise en charge, oui, hein, ça c'est clair, mais pas la même que dans la psychiatrie complète. Malheureusement, certains, c'est pas suffisant et viennent après à Janet parce que on n'a pas le choix. Mais ça, c'est les débuts de la maladie. Autrement, ça peut être aussi un transfert vers la clinique Océane, qui est en ville haute. Mais même chose, les patients sont choisis, on va dire.
Bon, on va voir le Saint-Patrick. Et ça fait combien de temps que tu travailles là ?
Pas loin de 30 ans.
Les infirmiers sont comme toi, des personnes qui travaillent depuis très longtemps ici ?
Alors pas tous, mais moi je suis arrivée à une période où c'était le nouveau diplôme de psychiatrie. Les années auparavant mon diplôme, il y avait l'infirmière psychiatrique et l'infirmière de soins généraux. Moi j'ai passé le diplôme qui regroupait les deux à la fois. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Les gens ne venaient en psychiatrie que quand ils étaient volontaires.
Vous êtes une équipe quand même présente depuis longtemps. Enfin c'est ça, il y a une stabilité dans l'équipe ?
Pas forcément. Moi je suis une ancienne, je n'ai pas le droit de bouger de mon service proprement dit, j'ai pas le droit de retourner en service d'hospitalisation complète suite à un accident de travail. Dans mon service, il y a un turnover, donc tous les 7 ans, les soignants doivent changer. Donc au bout de 5 ans, ils commencent à chercher déjà ailleurs parce qu'effectivement, c'est assez difficile, hein. C'est même un peu maltraitant quand même de devoir changer quand on se plaît bien dans le service. Le patient doit se réadapter à d'autres équipes, ce qui n'est pas non plus si facile que ça. Et mine de rien, ça donne à chaque fois de nouvelles directive, donc on réadapte. Ça permet aux équipes qui sont en intra d'essayer de postuler sur un poste à la journée et tout ça, enfin, d'avoir un peu plus de stabilité et faire autre chose que de passer toute la journée dans un service de soins avec des patients non stabilisés, quoi.
Et les patients, c'est des patients qui sont là depuis très longtemps aussi ?
Alors, il y a des patients que je connais depuis 25 ans.
On va s'installer. Il y a des tables ou pas, en fait ?
Oui, là, regarde,
ouais. Devant, oui. Les conditions de travail, alors, comment tu les décrirais ? Je pense, par exemple, en 2018, là, il y avait eu des grosses mobilisations en psychiatrie.
Alors, il y a eu une grosse mobilisation et ce n'était pas pour réclamer des vacances ou différents congés et tout. C'était la grosse mobilisation des soignants, c'était pour réclamer du personnel et des lits pour mieux s'occuper des patients. Recevoir des patients et les laisser pendant une semaine, voire 15 jours avec un matelas par terre, en soins généraux, on ne ferait jamais ça. Les patients seraient transférés. On a de plus en plus de patients, mais pas suffisamment de lits pour les accueillir. Et nos patients vont mal. L'état de la société va de plus en plus mal, il y a de plus en plus besoin de lits d'hospitalisation et de prise en charge, mais les moyens n'ont jamais suivi, voire ont même diminué au niveau des lits. Et effectivement, nous, il manque du personnel. Quand on est obligé de remplir des dossiers informatiques, de faire les entrées informatiques, de passer du temps avec de l'administratif, comme on est obligé de faire, ça coince forcément. Bonjour Michel.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ouais.
Bon, mais c'est bien. Je t'ai pas vu aujourd'hui.
Non, c'est bien.
Ouais, t'es pas venu lundi, t'es pas venu aujourd'hui, vendredi, il me semble que c'est un peu franchement nécessaire.
Demain.
Non, alors, je vérifierai lundi parce que moi je fais le pont. Mais toi t'as pas le droit du coup. Tu as fait le pont avant, mais du coup c'est vendredi que t'es obligé de venir toi. Ça marche ? Voilà. Je compte sur toi. Allez, file.
T'as encore quand même l'impression de faire bien ton travail ou
Ben, j'espère.
Ouais, c'est pas encore.
J'espère que j'amène quelque chose. J'ai toujours envie d'y croire. Mais ouais, non, pour moi, c'est toujours important. J'ai toujours cette conviction qu'il faut le faire. Autrement, je partirais ailleurs. Mais l'hôpital lui-même, c'est vieux. Alors, c'est pas la déco qui fait tout. Hein. Mais ça peut être quand même un peu rustre, hein, quand même. Hein. C'est, y a pas forcément de l'eau chaude. Le chauffage, on l'a eu que au mois de décembre, donc on avait froid. On rame pour avoir du matériel. Enfin, le bâtiment, il a été construit dans le début des années 70. Les fenêtres ont été changées il y a 3 ans, hein, c'est tout. Hein. Donc c'est encore limite quand même.
Et il y en a assez de logements pour à l'extérieur, du coup?
Non, non, non. Et nos patients sont aussi soumis à... Alors, tout ce qui est logements sociaux, bah, on peut toujours y aller. Hein. C'est très compliqué à décrocher. Et puis, bah, ça va être de la location sur ce qu'on va trouver à pas cher. Hein. Donc, bah, ça peut être aussi des marchands de sommeil dans certains hôtels, hein, parce qu'on travaille comme ça. Alors, il y a des hôtels qui sont très, très bien et qu'on a des hôteliers qui eux sont bienveillants avec nos patients, alors qu'il y en a d'autres qui vont être pour encaisser l'argent et ça va être miteux. Mais bon, voilà, c'est ça ou rien. Et puis ben, nos patients n'ont pas forcément beaucoup d'argent, parce que quand ils sont pas bien, c'est des patients qui peuvent aussi flamber beaucoup d'argent, qui peuvent aussi, on a aussi eu des toxicos, donc évidemment ils ont des dettes à différents chez leurs dealers aussi. C'est des gens qui, quand ils étaient pas bien, ont pu dégrader d'anciens logements aussi, donc les assurances, elles ne prennent pas en charge, donc ils ont pas forcément beaucoup d'argent non plus. Et bah, quand on prend un logement de droit commun, il faut payer la caution, il faut payer aussi l'emménagement avec les meubles et tout ça. Donc,
ceux qui sont à l'hôpital Pierre Janet ont le droit à une allocation, c'est ça?
Alors, c'est pas simplement nos patients qui sont hospitalisés qui ont le droit à une allocation adulte handicapé. À partir du moment qu'un dossier est monté et qu'il y a une reconnaissance MDPH, l'argent leur est versé. Mais il y a aussi plein de gens qui vivent chez eux, hein, qui sont aussi malades mais pas suivis. À partir du moment où ça reste à bas bruit et que c'est pas dérangeant pour la société, on en est là.
Vous êtes le patron du Saint-Patrick. Peut-être vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé dans ce café.
Je suis patron du Saint-Patrick, oui, je suis arrivé il y a bientôt 17 ans, par hasard d'ailleurs.
Et alors vous saviez que vous étiez, enfin que vous auriez une clientèle aussi importante de patients de l'hôpital ?
J'étais au courant, oui. Ouais, ouais. Quand je suis arrivé, il y en avait beaucoup moins. J'ai su adopter, gérer avec eux, les prendre comme ils sont, et je pense que oui. Quoi. Ils jouent aussi beaucoup. Quand ils ont un peu de sous, ils jouent. Ouais. C'est des joueurs, ouais, un peu accros des fois.
C'est une clientèle de quartier mixte finalement, parce qu'il y a des patients de l'hôpital et puis des gens du quartier, des habitués du quartier. Tout le monde cohabite bien.
Je sais pas que les patients de l'hôpital, hein, c'est un quartier populaire, donc j'ai un peu de passage. Beaucoup de clients attitrés, quoi, réguliers.
Merci bien,
bonne journée. Au revoir. Mais moi, j'ai pas de soucis avec eux. Ouais. J'ai plus de soucis des fois avec des gens qui sont hors hôpital qu'avec eux. Des liens qui se créent, ouais, sur certains, qui parlent, qui arrivent à parler ce qu'ils ont eu, d'autres moins, bien sûr. Hein. Après, je questionne jamais. Hein. S'ils veulent parler, ils parlent, moi je questionne pas. Hein. Moi, j'ai besoin de vivre, je prends toutes sortes de personnes. Hein. Du moment que j'ai la tranquillité et surtout pas la violence.
Ça commence à quelle heure la journée avec eux ?
Ah bah des fois à l'ouverture, ils m'attendent. Hein. Sinon un peu de sous, ils m'attendent. Surtout pour jouer, quoi. Bon, ils consomment aussi, hein, mais ils boivent très peu d'alcool, donc ça se passe très bien. De toute façon, j'ai besoin de tous, de tout le monde pour gagner ma vie. Hein. Ça fait vivre un peu le quartier, parce qu'il est un peu morose quand même, le quartier. Hein. Et s'il n'y avait pas l'hôpital, ben, ça pourrait être dramatique pour nous tous. Hein.
C'est bon.
Donc ou pas ?
C'est bon, ouais, c'est bon pour moi.
Merci à toi.
Allez, bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
C'est le bâtiment des urgences psychiatriques qui a été refait il y a quelques années. Et donc l'entrée se fait par là. Avant, la porte était toujours ouverte. Maintenant, j'imagine que c'est fermé à clé. Et ici, avant, il y avait les agents de loge, comme on appelait avant. C'est les personnes qui étaient là, qui surveillaient. Bah, ce n'étaient pas des vigiles, hein, c'était des personnes qui accueillaient. En fait, c'est plus des agents d'accueil. Donc des postes qu'ils ont supprimés. Ça fait que maintenant, il n'y a plus personne à l'entrée.
Donc c'est l'entrée libre.
L'entrée libre à, non seulement aux personnes, mais aussi... toutes les matières qui sont pas censées rentrer, quoi.
Ouais, tu parles des drogues, c'est ça ?
Ou des drogues, de l'alcool, effectivement, oui. Certaines personnes qui sont pas forcément non plus souhaitables, qui viennent avec les poches bien chargées, faire du business.
Ouais.
Ah oui, ah oui. Mmh. Avant, ces agents-là, ils étaient... bonjour. Ces agents-là étaient là pour filtrer un petit peu, même si c'était pas des... Ouais, des videurs ou des catcheurs, hein. C'était des gens qui signalaient et dont l'œil faisait peur un peu aux dealers. Et puis ça, c'était pratique pour nous aussi de les avoir, ça nous permettait de savoir ce qui rentrait, ce qui sortait, même les personnes en mal de soins qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, ils nous les signalaient comme ça, parce qu'ils les voyaient passer.
Et là maintenant ça a été remplacé par des caméras de vidéosurveillance,
ouais. On va peut-être aller au local tranquillement,
ouais.
Parce que je pense que Lionel, j'ai vu passer en vélo, il m'a dit j'arrive, mais je pense qu'il voulait dire j'arrive.
Au local.
Ouais.
Ok. Bon bah on y va alors. On pénètre dans cet hôpital psychiatrique qui s'appelle l'hôpital Pierre Janet au Havre. Tout droit, on passe la petite barrière.
Ouais. Il y avait une fenêtre là. Les agents.
Pardon ?
Les agents de loge avaient une fenêtre ici qui a été fermée. Ils ont remplacé par des clés, des badges, des boutons.
Donc c'est composé, donc cet hôpital est composé de plusieurs petits bâtiments, des pavillons, c'est ça ?
Alors, c'est le bâtiment administratif aussi, où il y a aussi des hôpitaux de jour, des CATTP, des extra-hospitaliers, toutes les infirmières qui ont leur bureau ici pour celles qui vont à domicile. Derrière, il y a une cafétéria avec le self pour les repas. Ensuite, on a plusieurs pavillons. Donc là, les urgences. Donc là, c'est l'entrée quand on arrive en ambulance ou avec les pompiers. Et puis derrière, il y a tous les pavillons d'hospitalisation. Le pavillon ado, là, qui est grillagé, qui a son propre fonctionnement. Et puis tous les pavillons adultes qui sont autour.
Ouais, les ados sont pas avec les adultes, c'est ça ?
Non, ah non.
Et le bâtiment des ados, c'est un peu bizarre qu'ils soient entourés de barrières ou de grillages. Enfin,
on est quand même en psychiatrie, il y a quand même du danger potentiel. Et déjà, rien que les ados entre eux, ça peut être compliqué. Alors si en plus, il y avait des personnes... Non, c'est pas souhaitable que les majeurs et les mineurs soient hospitalisés au même endroit.
Oui, mais c'est juste le côté grillage qui fait un peu prison, quoi. Mais bon, ça, c'est pas si visible que ça, mais j'imagine que quand on est dedans...
Ouais, non, c'est pas que ça fait prison, là. C'est parce que les ados, ils sortent pas de leur pavillon, en fait. Ils sortent quand il y a des sorties organisées en ville, mais ils ont pas accès au parc des adultes.
Donc, alors que les adultes peuvent se balader entre les pavillons, c'est ça ?
Bah, ça dépend lesquels, encore une fois. Hein. Il y a des services qui sont... Pourquoi c'est fermé ? Attends.
Pardon, tu veux refermer ?
Ouais, je vais fermer parce que je vois.
Donc là, on est dans le bâtiment administratif et on arrive dans le local syndical.
Mais c'est pas le seul endroit où ils ont supprimé pas mal de postes. Là, il y avait le responsable de la formation permanente. Son bureau était là, donc son poste n'existe plus. Il y a quelques mois qu'il est en retraite. Et là, les locaux syndicaux. On est bien logés.
Vous êtes dans les sous-sols, là. Donc toi, Mathias, tu travailles où exactement dans cet hôpital ? Quelle est ta fonction ?
Je travaille dans un pavillon d'hospitalisation ouvert. C'est-à-dire, en théorie, c'était des pavillons où les gens étaient en soins libres.
voilà, ça c'est en théorie, puisque maintenant, les gens sont rarement en soins libres, ils sont toujours en hospitalisation sous contrainte. Ou... Parce qu'on est hospitalisé sous contrainte, c'est soit la demande de quelqu'un, d'un tiers, comme on dit, ouais, la famille, ou soit la demande administrative, le préfet. Mais à chaque fois, ça va être validé par un médecin extérieur à l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont à l'hôpital pendant un certain temps, quelques jours, quelques semaines, et, mais ils ont leur chambre ici, avec un lit ici.
Voilà, et eux étaient là de volontairement.
Oui, il y a des gens qui se présentent régulièrement de leur propre chef, parce qu'ils sentent qu'ils ne vont pas bien. Ça arrive régulièrement.
Donc, toi, c'est ce type de patient que tu, avec qui tu travailles
avant, ouais, ouais.
Ah, plus maintenant.
Il n'y a plus assez de place maintenant. Il y a tellement de gens qui sont hospitalisés sous contrainte qu'on n'a plus assez de place pour les recevoir. Donc les gens qui se présentent d'eux-mêmes, on a souvent tendance à leur donner rendez-vous, mais à ce qu'ils restent chez eux.
D'accord. Et alors, comment ça se passe du coup, du fait de cette contrainte, j'imagine que ça ne doit pas être... Enfin, les patients sont là, mais donc, la majorité sont là sous contrainte. Donc, comment ça se passe? Comment on contraint les gens à rester dans un hôpital s'ils n'ont pas envie d'y être, quoi?
Alors, il y en a très peu qui n'ont vraiment pas envie d'être là. Je veux dire que la plupart sentent bien qu'ils ont besoin de ça. Il y a quand même des secteurs qui sont fermés, où les gens ne peuvent pas sortir. Le fait que les pavillons soient fermés, c'est plutôt souvent pour qu'ils aillent pas se mettre en danger. Qui vont se mettre en danger avec l'alcool, avec les drogues, et donc du coup avec les dealers, parce qu'ils ne sont pas forcément solvables.
Tu dis que chaque bâtiment, chaque pavillon, et par contre, est fermé. On ne peut pas sortir comme ça, quoi.
Ah, pas chaque bâtiment. Le pavillon où je travaille, il est fermé que la nuit. Mais la journée, tout le monde sort comme il veut. Certains n'ont pas le droit de sortir du parc, et la plupart du temps, c'est respecté. C'est-à-dire que le pavillon est ouvert, ils peuvent physiquement sortir, mais la plupart restent dans le parc. Il y en a même qui se sentent eux-mêmes effrayés par la ville. Il y en a beaucoup qui restent et qui ne sortent pas de l'hôpital, mais c'est leur souhait.
Mais est-ce qu'on peut dire aussi qu'une partie des patients sont là parce que, c'est-à-dire la société ne leur fait pas de place à eux tels qu'ils sont, quoi?
C'est pas facile de faire une place... à des individus qui sont tous très différents les uns des autres, qui ont besoin d'avoir un étage particulier.
Est-ce qu'il y a un projet qui accompagne les patients? Est-ce que le projet serait une sortie de l'hôpital?
Tous les patients qu'on reçoit sont censés, on est censé avec eux avoir un projet d'accompagnement pour un retour à l'extérieur. C'est ce qui est souhaitable pour tout le monde. Ce qui vient rapidement, c'est comment, avec quels moyens? Parce qu'effectivement, la plupart des gens pourraient avoir un appartement en ville, avoir une certaine autonomie, selon l'individu, plus ou moins d'autonomie, avec des aides, hein, des aides à domicile, que ce soit pour les repas, le ménage, l'organisation, l'administratif, comment gérer son argent, ses papiers, mais qui c'est qui paye? On est tous en sous-effectif, on est en sous-effectif à l'hôpital, mais y a les sous-effectifs dans le social, il est partout.
L'aspect médicamenteux, je ne sais pas, est-ce qu'il est lourd ou pas pour eux, enfin...
Encore une fois, ça dépend des individus. Face au manque de moyens humains pour les accompagner, la solution de facilité, c'est d'appuyer un peu sur la touche chimique. Ça, c'est certain. On n'a pas les moyens humains de les accompagner. Parce qu'on ne nous les donne pas. Hein. Moi, je préférerais, effectivement, mais on ne nous les donne pas.
J'ai envie de poser une question, Mathias. Tu nous as parlé des manques de moyens humains et financiers qui sont réels. Dans cet environnement compliqué, est-ce que l'hôpital... a une latitude? Est-ce que la direction et les équipes ont une latitude? Et est-ce que vous avez une latitude pour faire des choix d'accompagnement différents d'un autre hôpital? Des thérapies peut-être plus autour du sport, plus culturel, plus artistique? Est-ce que vous pouvez faire des choix d'orientation dans l'accompagnement des patients?
Alors ça, c'est plus des choix qui dépendent du corps médical. Et effectivement, les médecins sont de moins en moins dans la psychanalyse et de plus en plus dans les nouvelles pratiques. La parole du patient a de moins en moins d'importance dans sa prise en charge. Maintenant, on est plus dans l'observation de la réaction des patients par rapport à leur traitement. Le problème de la psychiatrie, ça a toujours été la guéguerre entre les différentes écoles de pensée. C'est vraiment les décideurs qui décident entre eux, et en fonction du chef de service, le soin est différent. Tu peux rentrer, hein, Lionel.
Tu peux aussi te présenter, nous dire ce que tu fais.
Moi, c'est Lionel, je suis infirmier psychiatrique. Psychiatrique, j'y tiens, de l'ancienne formation. Et je travaille dans les ateliers en unité d'ergothérapie.
Voilà. Alors, ça consiste en quoi ?
Ça consistait en quoi ? Parce que maintenant, ça consiste à plus grand-chose. Ben, en fait, c'est le soin par les activités. Et c'est des activités qui sont faites sur prescription médicale.
Toi, c'est l'hôpital de jour ou pas ?
C'est un service intersectoriel qui fonctionne à la journée.
Les patients, ça peut être aussi bien des patients qui sont hospitalisés que ceux qui viennent juste à la journée. Moi, j'avais juste envie de terminer un petit truc avec Mathias. C'était peut-être nous dérouler un peu que tu as un profil différent. Ta journée, c'est quoi, en fait
Donc le matin, quand on arrive, on commence notre journée à 6h30. On fait le point avec les infirmiers de nuit pour voir comment s'est passée la nuit. Préparation des médicaments, les patients se lèvent petit à petit. En général, on sert les petits déjeuners vers 8h, les médicaments aussi. On pratique beaucoup d'aide à la toilette, petit temps de pause. Ensuite, les médecins arrivent, on fait pareil, un nouveau point avec les médecins. On voit les patients qui ont besoin d'être vus. Donc on accompagne les patients, on entretient avec le médecin. Selon le patient, selon le médecin, l'infirmier intervient plus ou moins au cours de l'entretien. Donc c'est un entretien à trois la plupart du temps. Au cours de ces entretiens se décide la prise en charge et les projets du patient. Les projets de sortie, comment il sort, quels moyens, comment il sera entouré par sa famille, par les moyens qui sont mis à la disposition par l'hôpital. Ça peut être des infirmières de l'hôpital qui vont rencontrer les patients chez eux. Des rendez-vous avec les assistantes sociales, avec les ateliers comme celui de Lionel, parfois un peu obligatoire, parce que les patients qui n'ont pas envie qui préfèrent rester repliés dans leur chambre, on est un petit peu obligé de les bousculer. Ensuite, repas de midi, l'après-midi c'est un peu plus tranquille. L'après-midi, c'est, le pavillon est plus ouvert, les visites sont autorisées. Voilà, dans l'après-midi, les patients ont des activités, ils peuvent aussi se retourner vers nous pour avoir un temps de parole, régler leurs problèmes administratifs, obtenir des papiers pour les migrants, il y en a de plus en plus. 19h, repas, et ensuite, c'est plus tranquille, on leur fiche la paix après le repas en général.
Et alors toi, Lionel, qu'est-ce que tu proposes comme activité
Je suis atelier radio, atelier vidéo, je suis un peu sur l'atelier sport, et puis je m'occupe de l'animation.
Par rapport au fait que beaucoup de ces patients qui sont hospitalisés, du coup, le sont un peu par contrainte, est-ce que ça existe toujours ces contentions, enfin ce genre de choses à l'hôpital psychiatrique?
J'en ai pas vu pendant 28 ans peut-être, et depuis 2-3 ans non, ouais.
Entre 2015 et 2020, effectivement, c'était un peu une solution qui était assez rapidement utilisée, soit par facilité, enfin beaucoup par facilité. Mais depuis quelques années, j'ai l'impression qu'on redevient un peu plus sage. Je veux pas dire que c'est grâce à nous, mais un petit peu, parce qu'il y a eu pas mal de luttes de la part des anciens infirmiers, de la part des syndicats, que ce soit au niveau national ou local, pour dénoncer ces pratiques.
Comment ça se passe quand c'est mis en pratique, ça ?
Il y a eu une période où c'était une personne agitée, un peu violente, on ordonnait une contention sur... c'est une décision médicale. On avait une contention, on sautait sur le patient, on l'attachait, on le ligotait, puis on le laissait sur son lit, quoi. Ça, c'était avant 2020. Voilà, maintenant, ça, c'est beaucoup plus rare. J'ai l'impression que c'est plus accompagné. Je me trompe peut-être, hein, je suis peut-être encore un peu naïf, mais c'est pas des pratiques qui sont souhaitables, encore une fois. Mais des fois, par rapport au manque de moyens humains qu'on a pour accompagner les gens... C'est aussi une protection par rapport au danger dans laquelle peut se mettre le patient en question.
Et toi, t'es arrivé il y a combien de temps, Lionel ?
Moi, je suis arrivé en 91, donc ça commence à faire. Quoi. Mais non, mais je confirme ce que dit Mathias. Il y avait, en fait, c'est la grande différence entre avant et aujourd'hui, c'est les effectifs. Avant, on était en nombre, voilà. Puis il y avait une politique qui était, c'était la psychiatrie institutionnelle. La psychiatrie institutionnelle, pour que ça fonctionne, il faut du monde. Donc voilà, aujourd'hui, on n'est plus dans la psy institutionnelle. Et puis toutes les décisions qui sont prises, c'est pour parer au manque d'effectifs. Et effectivement, Mathias a raison, c'était plus avant 2020, il y avait toute une période où le terme de contention... Et c'était vachement utilisé parce qu'on n'était pas en nombre, en fait. Quoi. On était, Donc voilà, moi je suis de la vieille école maintenant. Quoi.
Et ça, enfin, il y a eu un mouvement qui a été, dont on a parlé au Havre, là, les perchés. Vous en faisiez partie ? Est-ce que ça faisait partie des mobilisations
Les perchés, quand ils sont montés sur le toit, quand le mouvement s'est mis en route, c'était surtout dû au problème d'effectifs. C'est-à-dire qu'en fait, on était vraiment en sous-effectif et il y avait des situations qui étaient inacceptables. Des collègues qui se retrouvaient tout seuls dans un service pour 25 patients. Enfin voilà quoi. Donc,
Il y avait des patients aussi, parce que quand les patients arrivaient, ils étaient logés, enfin ils étaient reçus sur des matelas. Par terre, on ouvrait un placard, des banquettes, on alignait des banquettes pour que ça fasse un lit, et ils étaient très mal reçus d'un point de vue organisation. C'était très compliqué pour nous de les recevoir, et c'était très compliqué pour eux dans leur dignité, et surtout quand on arrive, qu'on n'est pas bien, et puis qu'on nous fait dormir par terre dans un couloir, au vu de tous les autres, c'est pas comme ça qu'on combat la souffrance psychique. C'est complètement indigne. Ça mettait les patients, ça rajoutait une difficulté, ça mettait en souffrance les soignants aussi, hein, parce que c'est pas facile non plus de travailler dans ces conditions quand on rentre le soir à la maison en se disant qu'on a fait un boulot de merde, pas aujourd'hui, mais aussi hier, avant-hier, et toute la semaine, et tout le mois qui a précédé, tous les soirs, c'est compliqué. Quand les collègues sortent du boulot en pleurant parce qu'on a eu l'impression de maltraiter... les patients, parce qu'on se fait maltraiter par notre hiérarchie, parce qu'on ne laisse pas le choix. Voilà, il y a eu un mouvement de ras-le-bol. Sept de nos collègues ont décidé de monter sur le toit pour dénoncer ça. Voilà, donc ça a été dans la lignée des événements qui sont passés à Rouen avec les grévistes de la faim. Les collègues d'Amiens ont aussi fait ce type de grève, à Caen aussi. Il y a eu localement, enfin dans la région Normandie et Picardie avec Amiens, on a eu des échanges entre nous déjà pour voir les pratiques et on s'est rendu compte que c'était partout pareil. La réduction des coûts, ça passait par supprimer des moyens humains et les suppressions des moyens humains, ça nous amenait à utiliser des méthodes que nous-mêmes on n'approuvait pas. La surmédication, la contention, ça ne convenait à personne, pas aux patients, pas à nous, pas aux médecins non plus, mais les médecins, si on leur donne plus de personnel, ils sont les premiers à être ravis. Hein. Voilà, les seuls à être comme des poissons dans l'eau dans ces méthodes-là, c'est la direction. Depuis ces événements de la fin des années 2010, ça s'est un petit peu calmé. C'est franchement toujours pas terrible, mais c'est moins pire que ça l'a été. On est vraiment dans une situation que je déconseillerais à tout le monde de s'adresser à nous, enfin, dire à moins d'urgence. Enfin, c'est difficile à dire, hein, de se dire qu'on fait un boulot de merde parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. J'ai pas mal de collègues qui le prendraient mal d'entendre ça. Ça me ferait beaucoup de mal si mes proches, si ma famille devaient faire appel à un hôpital psychiatrique qui est dans le même état que l'hôpital du Havre.
Et toi, ça fait combien de temps que tu travailles ici ?
Je suis arrivé au Havre en 2007. Et je suis dans le même service depuis 2007. J'ai pas bougé.
Par rapport à ce que disait Mathias, toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui, en fait, on a toujours des problèmes d'effectifs et c'est des pansements sur des jambes de bois, ce qu'ils proposent. Les choses sont mal mises en place, tout, voilà. Et du coup, ça donne chez les patients qu'on connaît un peu chronique ou quoi, ça donne beaucoup d'errance. Quand vous vous promenez au Havre le dimanche matin à 8h, les personnes que vous croisez, c'est beaucoup de patients, voilà, qui savent, qui sont à la rue, quoi, ouvertement. Donc, ceux qui payent vraiment la facture, moi je trouve, du système de fonctionnement aujourd'hui de la psychiatrie, c'est le patient lui-même. Quoi. Nous, on en souffre, comme dit Mathias, c'est pas sympa de rentrer chez soi en se disant qu'on a fait de la merde et tout, mais on en prend l'habitude, quand ça dure depuis des années, ben voilà, on est calé.
Et quand tu disais le dimanche matin, on les voit le matin, mais ils sont à la rue, c'est ça ? Enfin, vraiment concrètement ou
Moi, le dimanche matin, avant, j'allais au foot, donc je partais de bonne heure. Mais honnêtement, sous les abris de vue, c'était que des gens de jeûner. Une fois, je m'étais arrêté, j'avais parlé, je lui ai dit, bah, qu'est-ce que tu fais là ? Il m'a dit, il devait quitter sa chambre d'hôtel tous les matins à 8h, il fallait qu'il arrive. Il avait pas le droit de la réintégrer le soir avant 19h. Donc effectivement, puis entre deux, il n'a plus le droit de venir à l'hôpital. Donc effectivement, voilà, bon, c'est bien un exemple bien concret, mais s'il y en a un comme ça, il n'est pas unique en soi, quoi. Ça veut dire qu'il y en a d'autres. Et en tant que professionnel, moi je le vis comme un abandon. J'ai l'impression d'abandonner la personne dans sa merde. Quoi.
Et par rapport à c'est la psychothérapie institutionnelle dont tu parlais tout à l'heure, toi c'était ça qui t'animait au départ, enfin...
quand j'ai choisi de faire ce boulot-là, ouais, c'était ce qui m'intéressait. En fait, la psychiatrie institutionnelle, c'est la prise en charge globale du patient. Quand vous prenez en charge un patient en psychiatrie, le chimique, il est super important. On peut pas, c'est les traitements, ils sont primordiaux. Même c'est, mais tout ce qu'il y a à côté pour l'accompagnement, une crise d'angoisse, ça peut peut-être se gérer par une balade de 2 heures à la plage plutôt qu'un traitement supplémentaire. Donc avant, quand il y avait quelqu'un qui était pas bien ou quoi, ben on le prenait avec nous, on allait se balader à la plage. Aujourd'hui, les collègues dans les services d'hospitalisation, ils peuvent plus faire ça, ils sont pas en nombre. Puis si on leur demande pas de faire ça, s'ils le font, ils sont même capables de se prendre un râteau en retour, quoi. Puis là, avec ce qui se passe au niveau de l'actualité actuellement, où on parle souvent de la psychiatrie ou quoi, j'ai peur qu'on ait encore plus dans ce sens-là. Toute la réponse apportée par le gouvernement, c'est tout le temps de la répression, des interdits, on n'est jamais dans la prévention.
Est-ce que les familles, du coup, vous devez intégrer plus les familles dans l'accompagnement des patients?
Déjà, il y a beaucoup de patients qui sont... où les liens, de par leur pathologie, les liens familiaux, ils sont cassés, quoi. Donc ça, c'est une réalité. Je suis pas persuadé que chez nos têtes pensantes que la motivation ce soit le bien-être du patient. J'en suis pas convaincu. Je pense qu'ils sont plus le nez dans les comptes. Vous savez, déjà, moi, ma formation, c'est infirmier psychiatrique. Je disais ça tout à l'heure, c'est pas anodin parce que quand le diplôme d'infirmier psy a été supprimé, c'est en 92, ça commence à dater, quoi. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait des mouvements qui s'étaient faits, il y avait des rencontres, des débats. Et quand on projetait 20 ans après, on se disait, verrez dans 20 ans tel que ça se déroulera. Et en fait, ça se passe vraiment comme ce qu'on avait vu, quoi. Voilà, c'est... Donc la psychiatrie, c'était pas un service comme les autres, c'était un service à part, aujourd'hui ça devient un service MCO. Il y a des détails hein, à la con qui font... Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de serrure, on ne mettait pas de blouse, il ne fallait pas mettre de blouse. On disait, pour marquer la différence entre le patient et vous, vous avez d'autres outils à utiliser. Aujourd'hui, quand vous prenez votre boulot, bah, déjà, il faut pointer, ça c'est une belle connerie aussi, c'est nouveau, mais c'est pas anodin. Hein. Vous avez votre trousseau de clés, il faut être en blouse, si vous n'avez pas de blouse, vous vous faites planter, il faut bien la fermer surtout, parce qu'on a un collègue qui a failli se faire planter parce qu'il travaillait la blouse ouverte. Enfin voilà, c'est... Et toute cette ambiance-là, quand ça se met... Je pense que c'était inévitable que ça se mette en place. Ce qui fait que moi, je pense que Jeannet a perdu son âme.
Oui, parce que Jeannet, qui a ouvert dans les années 70, était justement pleinement dans cette philosophie, ou je sais pas comment on peut l'appeler, cette pratique.
Ouais, c'est le premier hôpital psychiatrique, ce qu'on appelle ouvert, où il n'y avait pas de serrure et tout, en plein centre-ville, qui est apparu en 71. Voilà. C'était déjà que ce soit en plein centre-ville, c'est nouveau. Si vous allez vous balader en France, souvent les institutions psychiatriques, elles sont dans les alentours, un petit peu isolées et tout. Et Jeannet, c'était vraiment plein centre-ville, il n'y avait pas de serrure, c'était toute une politique. Et à l'époque, ils étaient précurseurs de cette psychiatrie-là. Les regards qui changent vis-à-vis de la psy, elle est plus par rapport à tous les faits divers. Dernièrement, tous les faits divers qui se passent, on entend toujours parler schizophrénie, patients psychotiques. Les regards de la population, je pense qu'elle change plus par rapport... On a quand même des médias qui foutent la trouille, quoi, par rapport à ça. Il y a même des patients qui en ont souffert de ce discours-là, qui se le sont pris en pleine face, quoi.
En prison, il y a beaucoup de schizophrènes, mais le taux de meurtre commis par des schizophrènes est par contre très bas. Pour assassiner quelqu'un, c'est pas du tout dans les habitudes des schizophrènes.
C'est dur pour un malade psychotique d'accepter sa pathologie et puis de pas la cacher. Pendant longtemps, c'était considéré comme des maladies honteuses. C'est, voilà, on vivait ça très mal. Aujourd'hui, elle est plus acceptée par la société. Vous savez, un schizophrène, c'est dans la population, il y a 1% de schizophrènes. Mais la pathologie mentale aujourd'hui est mieux acceptée qu'il y a 20 ans quand même, quoi.
Spécialement dédicacé à ceux qui s'emmerdent dans les cités, c'est le dub du village. Viens dans mon village, ôte ton plumage, montre ton visage, viens. Fais gaffe au virage, pas de dérapage, pas de bavardage, viens.
Radio Libertaire 89.4, un peu d'air frais, l'atelier du documentaire. Et on continue notre émission avec un nouveau document sonore. Alexandre a discuté avec Émile, un jeune atteint de troubles psychiatriques paranoïaques, de l'influence de cette pathologie sur lui et sur son entourage. On écoute.
Alors, bonjour, aujourd'hui je suis avec Émile.
et nous allons discuter de la question de l'exclusion sociale dans le cadre des problématiques de santé au niveau de la psyché. Mais tout d'abord, Emile, je vais te demander de te présenter pour les auditeurs, si tu veux bien.
Bonjour, moi c'est Emile. Pour faire simple, entre guillemets, sur le plan des maladies de la psyché, moi, dans mon parcours, j'ai eu affaire à de la paranoïa psychotique. C'est comme ça que ça m'a été décrit, même si j'ai pas, au final, vraiment de diagnostic qui est tombé à un certain moment et tout. Donc, j'appelle ça paranoïa psychotique. Voilà.
Et tu as quel âge ?
J'ai 23 ans.
Du coup, vis-à-vis de ces logiques d'exclusion, toi, en lien avec ton parcours psychologique, est-ce que tu en as vécu et comment est-ce que tu te positionnes vis-à-vis de ces moments vécus, s'il y en a eu ?
Alors, ouais, moi je pense que j'ai vécu en mode de l'exclusion sociale dans un certain sens, même si je pense qu'elle n'était pas forcément non plus... tout le temps à 100%. Il y a eu des phases où j'étais plus exclu, moins exclu. Mais dans la globalité des choses, je pense que moi, dans mon cas, les facteurs de mon exclusion, même si on cherche loin, il y en a peut-être des qui sont induits par d'autres personnes ou par un environnement. Dans le fonctionnement des choses, moi, c'est surtout en fait mon cerveau, ma psyché qui a fait que je me suis exclu en fait.
Et alors, ça ressemblait à quoi, du coup, ces moments où tu t'excluais ?
Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, en fait, du coup, moi, je vous ai parlé au début, enfin, je t'ai parlé, du coup, de la paranoïa psychotique. Donc, en fait, au bout d'un moment, quand on psychote et qu'on est paranoïaque sur certaines choses, par exemple, on peut se mettre à douter de personnes qui sont proches de nous, sur des sujets qui peuvent même être des sujets de vie ou de mort en fait, parce que je suis à une fête et j'ai l'impression je suis persuadé genre que un de mes potes a mis un truc dans mon verre pour voilà, après la prochaine soirée soit on y va pas, soit on y va enfin voilà, c'est dans ce cadre là où potentiellement moi je me suis déjà en fait par peur d'un guet-apens ou d'un coup monté par que ce soit genre dans le lieu de travail, lieu de d'études ou strictement genre loisirs, ça m'est déjà arrivé de m'exclure par rapport à ça, genre, voilà, la paranoïa quoi.
Donc ce que tu vois et vis à travers ta paranoïa te fait ressentir que des situations sont dangereuses en fait pour toi et que du coup il faut t'en protéger et du coup tu trouves que principalement c'est volontaire. Tu n'as pas des moments que tu regardes comme ayant été exclu
Venant des autres, honnêtement, je pense pas, parce que moi, à chaque fois que j'ai eu des... j'ai eu cette chance, en gros, à chaque fois que j'ai eu ces problématiques de crise de paranoïa, entre guillemets, j'ai été, entre guillemets, pris en soin assez rapidement. Donc, en fait... Ça n'a pas vraiment le temps de paraître aux yeux du monde, quoi. Faut vraiment faire attention pour quelqu'un qui me connaît bien, il peut déceler dans mes réponses ou dans mon regard ou quoi qu'il y a un truc qui va pas, mais je me suis jamais senti exclu pour ça, quoi.
Tu as choisi de t'exclure à cause de la violence quelque part qui se passait à l'intérieur, d'une forme d'anticipation sur le temps long. Donc comme tu parlais au niveau des fêtes, etc., est-ce que avoir des expériences comme celles que tu as décrites, ça fait qu'on va plus trop en soirée, on évite, on s'enferme?
Ouais, carrément. Ouais, j'ai évité à des moments de sortir ou d'aller à l'école ou de faire des trucs comme ça. Mais après, t'as dit que c'était un choix. Alors, c'est un choix quand on regarde dans les faits et tout, mais sur le moment, c'est pas un choix en fait, c'est un instinct de survie. Donc c'est quand même un choix, mais c'est surtout en fait ton cerveau qui te met en instinct de survie et qui te dit là, il faut pas y aller, quoi, genre, tu vois. Ouais. Pour moi en tout cas, ça a été un truc qui était un peu obligatoire, quoi. Genre, avant que j'ai ce type de problématique dans ma vie, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup aller en soirée, rencontrer des gens, parler, tout ça, faire la fête, écouter de la musique, et tout ce qui va avec, tu connais. Et genre, du coup, après, je suis passé un petit peu par ces phases avant que ça devienne un peu obsédant et que je m'empêche d'y aller, où j'ai senti que c'était des ambiances qui me mettaient assez mal à l'aise. Et donc, c'était un peu les prémices de ce qui m'est arrivé après. Après, il y a eu du coup le moment où j'ai été dans des endroits comme ça, de rencontres sociales, et où j'ai vraiment senti des dangers. Et après, du coup, les fois où j'y suis pas allé pour éviter le danger. Et après, dans mon parcours, moi, du coup, il y a aussi après la phase de entre guillemets guérison, entre guillemets, où du coup, avec une aide médicamenteuse, je retrouve un petit peu l'envie d'aller en soirée. Je retrouve la confiance. En gros, j'oublie un peu les pensées que j'avais dans les moments où je voulais pas y aller. Et voilà, donc c'est à géométrie variable, parce que du coup, avant j'aimais bien, après ça me faisait peur, je voulais plus y aller, après j'aimais bien, et puis après ça m'est arrivé de retrouver ça et de plus vouloir y aller non plus, voilà.
Tu disais que ça, c'est des choses qui t'arrivaient aussi dans le milieu du travail ou dans le milieu scolaire, alors que ce sont des lieux qui sont censés être moins excluants pour les personnes qui sont dedans, qui participent des cours ou alors du travail même. Est-ce que c'est des choses qui arrivent aussi? Et dans quelle mesure ça t'impacte dans, justement, ta vie professionnelle, ton parcours scolaire?
Alors, dans un premier temps, sur le côté scolaire, parce que du coup, moi, c'est dans une période où j'étais dans le scolaire où j'ai rencontré un peu ces problématiques. Et donc, en fait, globalement, ce que ça peut faire, c'est commencer, en fait, à plus vouloir s'asseoir avec les autres à table pour manger. Donc manger le plus vite possible et puis après disparaître, aller un peu s'isoler directement dès que je me sentais pas bien ou quoi, c'est écouteurs, musique, éviter le maximum de contact social avec le recul maintenant je sais que genre, enfin voilà, ça, les gens le voient en fait, mais surtout quand ils ont connu quelqu'un de plus, genre quelques mois avant, qui aimait beaucoup parler et tout, donc les gens le ressentent. Mais donc du coup c'est un truc qui exclut un peu, et donc ça en va même du coup sur le parcours scolaire. Moi j'ai eu genre par exemple des journées où j'étais sûr que là si j'allais à l'école il allait m'arriver quelque chose, donc je restais chez moi enfermé toute la journée à fumer, rien faire d'autre en vrai. Et donc, voilà, ça marche un peu comme ça. Et à la fin, finalement, je dis la fin, mais parce que moi, il y a eu ce truc qui a marqué, en fait, mon premier passage aux urgences psychiatriques, du coup. Et donc, à la fin, avant ce passage aux urgences, moi, j'allais plus du tout à l'école, je restais dans ma chambre toute la journée, volet fermé, je guettais vraiment, genre, dès qu'il y avait un bruit autour, comme si quelqu'un arrivait, je me faisais silencieux pour pas qu'on sache que je sois là. Je regardais par les trous des volets qu'il y ait personne qui... Ouais, bref, voilà. Et après, donc ça c'était plus tard, sur le milieu du travail, ça va être... Ça se joue en quelques jours, en vrai, l'arrivée de ces pensées-là, et donc le fait de plus se sentir à l'aise quand on est par exemple avec les collègues, le lieu de travail lui-même devient un lieu hyper anxiogène, en fait, parce que je travaille dans le paysage, donc je travaille à l'extérieur, souvent. Et ça m'est déjà arrivé de croire, par exemple, que sur mon lieu de travail, que potentiellement, genre, les oiseaux étaient des caméras ou des trucs comme ça. Donc, voilà, quand on voit des oiseaux toute la journée et qu'on est sur ce lieu de travail, qu'on a l'impression d'être observé par le gouvernement ou autre chose, tu vois. Genre, finalement, après, on n'y va plus. Après, bon, moi, je suis bien entouré, j'ai la chance d'être bien entouré sur ça par ma famille et mes amis, d'ailleurs. Et donc, du coup, très vite, je suis pris en charge. Donc, après, c'est arrêt de travail pendant le temps qu'il faut et puis on y retourne. Mais voilà.
Tu dis que ta famille te soutient, que tes amis te soutiennent. Est-ce que ça a porté préjudice à ta relation avec tes amis ou ta famille quand même auparavant? Et aussi, comment les gens y réagissent quand ils te voient? Parce que comme tu disais, parfois ça se voit. Quand ils te sentent être dans un questionnement qu'eux ne peuvent pas percevoir directement, comment est-ce qu'eux y réagissent?
Alors, j'ai pas vraiment poussé mon analyse sur les collègues ou les gens avec qui j'étais à l'école, forcément, parce que c'est pas forcément tous des gens à qui j'ai beaucoup parlé après, finalement, mais je suis éclairé sur le fait de ce que ça fait, par exemple, à mes proches, et donc, par exemple, à ma mère. Et donc, la première fois, du coup, que ça m'est arrivé, ma mère, elle était terriblement apeurée. Elle m'a dit à contre-coup que... Enfin, en fait, au bout de quelques mois où j'étais sous traitement et que j'allais bien et que je pouvais entendre les choses, elle m'a dit là j'ai l'impression de te retrouver, je pensais que je t'avais perdu, tout ça. Donc c'est bizarre d'un côté parce que bon, j'imagine dans son côté qu'on sait pas trop comment agir. Après elle a bien agi au moment où il fallait parce que du coup c'est elle qui m'a emmené aux urgences psychiatriques. Mais y a toute une période avant ça où franchement je pense qu'elle savait pas quoi faire. Pour mes amis, c'est compliqué quand on a, tu vois, le même âge et qu'on sort dans des cadres, enfin qu'on se voit dans des cadres un petit peu de fêtes et de sorties. On voit souvent que quelqu'un est mal, mais c'est un peu des fois difficile d'aborder le sujet. Ça dépend en fait, ça dépend qui et tout. Mais du coup, ouais, quand les gens le voient, les gens se posent des questions. Et après, du coup, une fois que la vague est passée, on va dire, ouais, les gens disent que ils se sont dit qu'est-ce qui se passe quoi. Ils ont eu un peu peur. Tu vois.
Et donc il y a ce sentiment que du coup les gens ils finalement te soutiennent plutôt, ou alors ils te font pas peser en plus du poids que tu portes déjà par le fait de vivre ces moments, ils te font pas peser ça en plus, notamment parce qu'en fait ils te voient dans les moments compliqués, mais ils te voient aussi dans les moments moins compliqués. Et du coup ça leur permet quand même de relativiser, tu penses?
Oui, carrément. Après c'est vrai que j'ai pas été rejeté par mes proches. Par exemple, tu vois, je suis persuadé que si j'avais pas eu les mêmes proches, potentiellement des gens avec d'autres, modes de pensée, vécu, tout ça, ça aurait pu, j'aurais pu être rejeté par rapport à ça aussi. Je sais qu'il y a des gens à qui ça arrive, mais moi, j'ai eu la chance de pas être rejeté. C'est vrai que quand on se rend compte, après, on va dire entre guillemets une première vague de ce type de de paranoïa, et qu'on voit que les choses peuvent redevenir saines et entre guillemets bien, les gens sont rassurés.
Tu n'es pas rejeté et tu es bien entouré, et ça fait une différence conséquente dans la manière dont tu vis la question.
Ouais, carrément, parce que par exemple ma mère m'a dit quelque chose, en fait elle m'a dit que la fois où elle m'a emmené aux urgences psychiatriques, elle a vu un jeune d'à peu près mon âge, comme elle l'a décrit, qui était pareil aux urgences psychiatriques, mais lui il était seul en fait. Ma mère m'a dit qu'il avait l'air de potentiellement pas forcément avoir un toit, par exemple, et ça lui a fait beaucoup de peine, parce qu'elle s'est imaginé par exemple moi dans sa situation. Enfin voilà, moi je sais que ce que j'ai vécu, si j'avais pas eu l'entourage que j'ai, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui, ce qui est normal. Mais je serais pas dans un endroit où j'aurais aimé être, en fait.
Et est-ce qu'il y a des moments où, en voyant en fait des moments compliqués pour toi, est-ce que tu sens que le regard des gens il change vis-à-vis de toi? Et qu'est-ce que ça te fait?
Alors, le regard des gens, il change, mais avec ma pathologie, en fait, je sais pas si c'est moi qui l'interprète différemment alors que c'est le même regard que d'habitude, ou si c'est vraiment le regard qui change. Ça, j'ai pas le recul encore pour dire ça. Après, par exemple, je sais que ma mère, son regard, il a changé, parce que depuis que ça m'est arrivé, alors que déjà à la base elle est du genre à s'inquiéter pour ses enfants, tout ça, maintenant elle s'inquiète en plus, et du coup ça se voit un peu dans son regard que elle est inquiète. Après moi dans mon cas, ce qui est compliqué aussi en fait, c'est que quand je suis dans une crise de paranoïa psychotique, le regard des gens, j'en parle parce que t'as dit regard des gens, mais le regard des gens, en fait, t'as l'impression que déjà que tout le monde te regarde. C'est quand tu marches dans la rue, franchement, c'est. Je sais pas si tout le monde connaît le terme tweaking. Moi, je suis tweak de ouf parce qu'en fait, je me retourne à chaque fois. J'ai l'impression que chaque personne que je croise le regard, elle lit dans mon esprit et en même temps, elle donne des informations à je ne sais qui pour me suivre ou me retrouver. Donc. Le regard des gens, je sais pas s'il change, mais en tout cas, moi, dans mon cas, c'était devenu une menace, quoi. Voilà, quelque chose qu'il fallait éviter au plus. Et donc, c'est là aussi où on en vient à s'exclure aussi, parce que du coup, le regard des gens, il est pesant dans le sens... C'est pas dans un sens mauvais où les gens jugent ou quoi. Moi, c'est pas ça que j'ai ressenti. Moi, c'était dans l'idée où voilà, c'était vrai, littéralement une menace, quoi. Donc on essaie de s'en enlever, quoi, du regard des gens. Ouais.
Est-ce que tu as déjà eu un peu des gens que tu connaissais, par exemple, ou que tu rencontrais, et qui, apprenant parce que tu leur dis ou d'autres manières un peu ta situation, portaient sur toi des regards que tu n'appréciais pas, au-delà de la question paranoïaque, vraiment, je sais pas, des gens t'ont donné de la pitié, que ça t'embête, ou des choses comme ça?
Alors, en fait, ça m'a fait penser au cadre travail, parce que déjà, en fait, c'est un truc, bien sûr, que j'étais pas obligé de dire, où je me suis senti assez à l'aise pour en parler à mes collègues, mes chefs et tout, pour avoir... Enfin voilà, déjà pour qu'ils comprennent pourquoi, par exemple, j'avais été absent pendant tant de semaines ou de mois, genre, bref. Et en fait, les gens déjà se posent des questions, en fait, parce que quand ça se voit pas sur une personne, parce qu'il y a beaucoup de pathologies mentales qui font que, enfin, quand tu croises une personne et tout, tu le vois pas forcément. Et donc en fait, les gens se posent beaucoup de questions. Donc il y en a beaucoup qui ont un regard en mode de intrigué. Donc ça, c'est pas un truc qui te dérange, en mode moi j'explique et si les gens ils comprennent et c'est bien, quoi. Après, je pense pas avoir reçu des regards, par exemple, de pitié ou quoi. J'ai potentiellement reçu des regards de gens qui étaient pas sûrs déjà, que, genre, je sais pas, on m'a souvent dit des trucs au travail en mode ah ouais, toi... genre, y'a moyen que tu nous mettes un coup de pelle si t'es pas bien, genre, tu vois, genre, c'est des trucs comme ça. Mais bon, moi, c'est pas le genre de truc qui me dérange vraiment, parce que surtout dans le c'est qu'on va dire, hein, mais dans le milieu où je travaille, c'est le genre de truc qui, enfin voilà, c'est pas à moi que on s'en prend le plus par rapport à ça, mais enfin, je veux dire que, ouais, genre, en tout cas, moi, c'est pas un truc qui me dérange, c'est pas un truc qui m'a dérangé sur le moment, en tout cas, parce que c'est vrai que moi-même, potentiellement, avant d'avoir ces problématiques, j'aurais pu potentiellement réagir comme ça si j'apprenais qu'un collègue de travail avait potentiellement des tendances un petit peu... je sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais schizique, je sais pas trop c'est quoi le terme, mais genre, voilà, un petit peu... Donc, voilà. Mais oui, des gens qui peuvent être inquiétés, qui peuvent être... se poser des questions, mais en vrai, quand on les voit au quotidien et qu'ils voient que... Bah, voilà, on est des humains, et puis c'est pas parce que, enfin, c'est pas moi qui serais le plus apte à mettre un coup de pelle à quelqu'un, genre, bref.
Ça veut dire que si toi t'en parles ouvertement, ce qui, je suppose, est tout à ton honneur, y a ce côté où la première réaction des gens, c'est une forme de peur, du coup. Toi, tu trouves pas que c'est un peu essentialisant, au sens où ça veut dire que... une étiquette est mise sur ta tête et que la réaction des gens en réflexe, c'est de se dire il y a une passerelle vers la violence qui est toujours ouverte, etc., quoi.
Ouais, c'est sûr que ça fait un peu, comme tu dis, étiquette et tout, et c'est t'as surtout dit un truc intéressant, c'est la passerelle vers la violence. C'est un truc que j'ai beaucoup vu, que les gens, en fait, s'imaginent que voilà, ce type de pathologie liée à la violence, ça a rien à voir, par exemple, avec ce type de pathologie. Genre, si je suis violent, c'est pas parce que j'ai l'impression que les oiseaux sont des caméras, genre, bref. Certes, c'est essentialisant, comme tu dis, genre, c'est une chose. Après, moi, là où je me pose la question, c'est si c'est vraiment si mauvais que ça. C'est mauvais quand la personne qui est essentialise n'est pas ouverte au fait d'apprendre. Quand c'est une personne qui te met une étiquette parce qu'elle ne sait pas faire autrement, mais qu'elle peut faire changer ce qu'il y a écrit dessus, ou alors l'enlever, la déchirer à moitié, même s'il reste forcément un petit peu quand tu arraches une étiquette, un petit bouquet collé, tu vois. Mais genre, quand les gens ils sont là pour comprendre, en fait, c'est ça, c'est quand quelqu'un n'est pas genre 100% malveillant, généralement ça va. Mais il y en a, ils sont maigris, il y en a, ils savent, c'est sûr. Et généralement, c'est le genre de personne à qui tu parles pas trop de tes problèmes, en vrai. Donc, ouais, voilà. Mais moi, je sais que, par exemple, dans ce lieu de travail-là où j'en avais parlé, à la longue, ça m'a pas valu plus que quelques remarques de temps en temps, souvent sur le ton de la rigolade. Au niveau de mes chefs, par exemple, ils me faisaient totalement confiance, parce que moi, la première personne à qui j'en ai parlé, c'est celui qui m'avait recruté, donc C'est vers lui que je suis venu. Genre, lui, sa position, c'était surtout en fait de me dire, bah, si tu sens que ça va pas déjà, viens me voir. Si tu sens qu'il y a une pression par rapport aux collègues, viens me voir. Genre, si t'as envie de le dire à personne, dis-le à personne. Genre, moi, ça, c'est un truc. Parce qu'il y a aussi, genre, il y a aussi des gens, ils sont bienveillants, quoi. Donc, voilà. Genre, faut savoir aussi vers qui s'orienter, mais voilà.
Tu décris précisément que on peut y faire et qu'il y a certains leviers et certaines choses qui permettent d'empêcher un petit peu de se marginaliser et de marginaliser les gens. Quand tu es dans des positions de crise, quand tu es enfermé chez toi par exemple, est-ce que tu arrives à observer ce qui fait que tu arrives à revenir dans la société, à re-accepter de sortir chez toi? Est-ce que c'est des mains tendues?
Alors, là je vais parler d'un truc, ça fera pas unanimité. Moi je sais que déjà dans un premier temps, ce qui m'a aidé pour potentiellement sortir de cette exclusion et du fait de, en fait, d'être terrorisé, de mettre un pied dehors, de même à ce moment-là, en fait, c'est littéralement déjà le mettre un pied dehors qui est compliqué. C'est avant même de voir des gens et d'être dans un milieu social, pour moi rien que le fait d'être... en dehors de, genre, par exemple, ma chambre ou quoi, c'était vraiment, genre, très très compliqué. Genre, je suis passé par une période où j'entendais un avion, mais c'est limite, en fait, je me mettais au sol comme un chien qui a peur de l'orage, quoi, tu vois. Donc, voilà. Mais, du coup, moi, la première porte pour sortir de ça, ça a été une aide médicamenteuse, du coup. C'est un truc qui, voilà, qui a ses points négatifs et ses points positifs, comme tout. Alors, ouais, bien sûr. Aide médicamenteuse, soutien surtout des proches, je pense, et aussi c'est tout, déjà faut essayer de se remettre en question le moins possible sur le fait de je suis capable de me remettre dans un milieu social, c'est ça, que ça devienne quelque chose de terrorisant, quoi. Bah en fait non, même avant même l'aide médicamenteuse, en vrai de vrai, proche, hein. Proche, famille, tout ça, s'il n'y a pas ça, déjà l'aide médicamenteuse elle va être moins efficace. Parce que moi par exemple, j'étais vraiment dans une phase, par exemple au début, où pour moi rien que le fait de prendre les médicaments qu'on voulait me donner, c'était signer mon arrêt de mort, genre, tu vois. C'était genre, pas forcément ça va me littéralement me tuer, mais ça va me faire devenir un robot, un légume, n'importe quoi que tu veux, genre, qui était vraiment genre quelque chose que je voulais éviter au maximum. Et donc en fait, sans être accompagné, moi ça a été ma mère, ça peut être un père, ça peut être un ami, ça peut être potentiellement aussi quelqu'un de professionnel, même s'il n'y a pas forcément ce type d'attache, parce que moi j'ai il y avait l'amour de ma mère, la confiance qui fait que j'ai accepté de prendre ces médicaments. Au final, voilà, dans la continuité des choses, en fait, j'ai réussi à reprendre. Aujourd'hui, je mène une vie, entre guillemets, rien de plus normal, quoi. Genre, j'ai des amis, j'ai une vie amoureuse, j'ai un travail, j'ai des loisirs. Enfin, voilà, je coche beaucoup de cases d'une vie normale, voilà.
Sur les questions amoureuses, justement, les relations amoureuses, est-ce que ça a pêché, enfin a agi contre toi dans un rapport passé? Est-ce que ça t'a empêché de, je sais pas, de retenter des relations amoureuses, des choses comme ça à une époque, dans ce processus d'enfermement?
Alors, si, en vrai, carrément, en vrai de vrai, comment dire, moi à l'époque où ça m'est arrivé, par exemple, j'étais dans une, la première fois où ça m'est arrivé, j'étais dans une relation. Et en fait, ça devenait compliqué, en fait, parce que même si c'était quelqu'un avec qui je me sentais à l'aise, le fait, par exemple, de aller au cinéma, aller faire un resto, c'était devenu quelque chose de terrorisant, en fait, parce que du coup, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé littéralement d'être dans une salle de cinéma, regarder un film et quitter la salle de cinéma, en fait. Et genre, bon, déjà quand t'es dans ton couple, la personne elle a envie de voir le film, bah là tu niques tout, en fait, et genre t'es désolé tout ça, mais en même temps tu pouvais pas rester une seconde de plus dans la salle de cinéma, c'était trop. Donc après, si la personne accepte, tu fais autre chose, tu vas te balader dehors, tu fais un truc qui est moins stimulant, quoi. Mais ouais, par exemple au resto, être assis à une table, pas arriver à regarder la personne dans les yeux, parce qu'en fait t'as l'impression que derrière toi, en fait, dans ton dos, t'as une multitude de choses qui te regardent, et qui attendent de... Enfin voilà, après t'agis en fonction de... En fait t'agis comme s'il y avait 20 000 trucs qui te regardent derrière toi. Donc t'agis bizarrement en fait quand la personne en face de toi essaie juste d'avoir une discussion, t'es là, tu réponds pas, tu regardes ton assiette, tu manges à peine. Genre voilà, ça c'est des trucs qu'on pose dans ma relation. Et donc en fait, qui au final en fait on fait qu'elle, je pense entre autres, même s'il n'y a pas que ça, mais genre qui fait entre autres qu'une relation peut s'arrêter, c'est que bah après une grosse crise où tu réponds même pas à la personne, parce que le téléphone par exemple pour moi était devenu quelque chose de, comme je dis depuis tout à l'heure, terrorisant, mais genre c'était vraiment devenu un instrument d'une force mauvaise quoi, donc ouais, ça veut dire que tu prends pas contact avec la personne, et après quand tu passes aux urgences psychiatriques, que tu passes 6 mois à la maison sans pouvoir mettre un pied dehors, faire des trucs comme ça, bah ouais, ça met fin potentiellement à une relation, et potentiellement du coup à n'importe quel autre contact social aussi. Mais voilà, je pense qu'avec quelqu'un de compréhensif, c'est pas forcément quelque chose qui est obligé de mettre fin, mais bon, dans certains cas ça peut quand même être compliqué de trouver voilà, un truc.
Et du coup, oui, donc il y a ces moments où ton enfermement, il passe aussi par une fermeture des réseaux de communication, où tu, hop, le téléphone loin de toi. Et est-ce que les gens te le reprochent, ça, ou est-ce qu'ils arrivent à comprendre quand même
Alors, c'est un truc, moi, qu'on m'a beaucoup reproché, parce que même avant, enfin, genre, c'est un truc que j'ai pu faire beaucoup, ça, couper un peu les moyens de communication. Mais du coup, c'est quelque chose à la fois qu'on m'a reproché, à la fois qu'on a compris, à la fois que des gens... Je pense à l'heure d'aujourd'hui, les gens l'ont compris. Il y a peut-être 2-3 personnes dans mon entourage qui ne le comprennent pas, que ce soit famille, amis ou quoi que ce soit. Après en vrai, c'est ça, on s'isole aussi sur les moyens de communication qui ne sont pas directs, genre la parole, voilà, tout ce qui est numérique. En vrai, moi, dans mon cas, ça m'a... Enfin, j'ai dû couper avec ça un peu. Ouais. Et même sans le vouloir, parce que des fois, en fait, on n'a pas envie de couper. Je peux avoir mon téléphone dans les mains et essayer de regarder une vidéo, mais en fait je vais rien capter de la vidéo parce que je suis totalement en train de bugger devant mon écran et de me dire qu'il faut pas que je détourne le regard, parce que sinon ils vont croire que j'ai vu la caméra qui est dans le téléphone, mais moi je veux pas qu'ils voient qu'il y a la caméra, donc tu regardes le téléphone mais tu regardes pas vraiment.
Tu as dit du coup que tu étais passé par des établissements de soins, et quel est un peu ton point de vue sur comment tu as été perçu, accueilli, ouais, ou un peu altérisé dans cette période-là, ouais, où du coup tu portais vraiment l'étiquette officiellement de pourquoi tu étais là, quoi.
Alors, cadre de soins, moi déjà, en vrai de vrai, je découpe ça en plusieurs trucs. Donc il y a eu urgence psychiatrique, mmh, après il y a eu psychiatre, entre guillemets privé, ou je sais pas comment on appelle ça, mais une psychiatre, voilà, ouais, potentiellement libérale, ouais. Et il y a eu aussi un épisode où je me rappelle du coup de, qui peut d'ailleurs parler un peu d'exclusion, le CMP. J'ai été quand même traité assez rapidement. Je suis aussi, je pense que c'est dans ma nature et tout, de pas forcément. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui auraient eu les mêmes pensées que moi, qui auraient été beaucoup plus actifs en action pour se défendre. Moi, je suis un peu passif sur certaines choses, donc ça va surtout se passer dans ma tête. Je pense que des gens qui prennent des actions physiques sont potentiellement un peu plus étiquetés parce que potentiellement dangereux, parce que potentiellement apeurant. Donc du coup, ouais, moi, c'est urgence psychiatrique. Bah, en fait, ouais, très bien accueilli. Je pense que les gens qui soignent ce type de pathologie, ils voient beaucoup de gens. Je pense que même pour en avoir parlé avec certaines personnes qui ont fait par exemple des stages dans ce milieu ou quoi, il n'y a pas un patient qui est similaire à un autre. Ils ont certainement des ressemblances sur certains trucs, mais chaque patient est différent. Donc je pense que du point de vue de la plupart des personnes qui soignent ça, par exemple en urgence psychiatrique, je pense qu'ils sont assez ouverts d'esprit et pas stigmatisants, quoi. En fait, non, d'abord, on m'a accueilli. On m'a demandé. J'ai le souvenir qu'il y a un cachet que j'ai pas eu peur de prendre parce que genre, on m'a demandé et tout, donc je l'ai pris. Et ce cachet-là, c'était du Valium, 5 mg. Et avant qu'on me le donne, en fait, j'avais été accueilli, mis dans une pièce, seul, où j'ai eu le temps de bien psychoter sur ma situation. Et en fait, après, on m'a proposé ce cachet que j'ai pris. J'ai fait le choix de le prendre, même si Ça pouvait être un autre schéma mental dans ma tête à ce moment-là. Et en fait, ce premier Valium m'a fait un bien fou. Ça, j'ai été tout le temps, enfin toujours aussi paranoïaque et tout, mais ça m'a vraiment calmé physiquement et mentalement aussi. Et en fait, ça a permis d'avoir un peu plus confiance sur le moment. Voilà, donc moi, c'est les seuls trucs qui m'ont donné, enfin, ils ont estimé que, voilà, un Valium, une prescription, et c'est tout. Après, du coup, psychiatre, prescription pour des antipsychotiques. Donc, bien sûr, avec, j'imagine, le choix, même si j'avais pas forcément trop le choix parce que ma mère était là, donc voilà, fallait que je prenne les médicaments, quoi. Mais bon, ça m'a aidé finalement, donc c'est bien. Mais voilà, quelqu'un qui avait, genre, la même pathologie que moi, comme si on mettait mon esprit dans quelqu'un qui n'avait pas, par exemple, une mère, enfin, genre, qui n'avait pas ma mère, genre, s'il n'avait pas voulu prendre les médicaments, il les aurait pas pris. Donc, quitte à même s'exclure plus ou prendre un autre chemin, genre, il aurait pas pris. Donc ça, c'est pas un truc où moi personnellement j'ai été forcé, qui m'a, genre, voilà. Et psychiatre, du coup, après c'est un accompagnement aussi. Je me suis pas senti stigmatisé ou quoi. Beaucoup dans le, ça évolue en fait, parce que les premières séances, il y a vraiment ce truc de ouais là, genre, patient à mort, faut faire quelque chose parce que sinon ça a mal se passer. S'il y avait potentiellement eu des, en plus, genre, des envies de mettre fin à ses jours ou quoi que ce soit, très vite on est on est pris très au sérieux et ça se voit, genre, les gens ils sont préoccupés, quoi. Donc voilà. Et après, par contre, bon, un dernier truc, du coup, moi on m'a conseillé, du coup, d'aller en hôpital de jour dans un CMP. Et là, ça peut être une forme d'exclusion, pas une exclusion sociale au propre sens du terme, mais c'est une exclusion à un certain milieu social, du coup. Moi, quand je suis arrivé, de mon plein gré au CMP quelques mois après ma première crise, que j'ai toqué à la porte, que j'ai dit « oui, bonjour, je viens en hôpital de jour, s'il vous plaît », la dame qui m'a... Et ça, c'est même une fin ouverte, en vrai, parce que la dame qui m'a reçu m'a dit mot pour mot: fuis, viens pas là, tu vas devenir fou, mon gars. Voilà. Donc là, par exemple, tu vois, les gens qui sont en hôpital de jour dans le CMP où j'ai été, je pense qu'ils n'ont pas le même traitement que moi. Voilà. Voilà. Yes.
Ben, merci beaucoup, Émile, pour toutes ces précisions. Merci d'avoir un peu parlé de ces questions-là. Et je te remercie énormément. Et je te dis à la prochaine.
Stalocratic. If I want to, I can jump off this building. Stalocratic. I can hold two pieces of doo-doo in my hand. Stalocratic. I can call everybody in that room a rubber. Stalocratic. Come on, please. Stalocratic. I can say anything that I want. Stalocratic. I could wave my hand in my ear. It's Stalocratic. I could stick my hand up my nose. It's Stalocratic. I can hold my foot and count to three. It's Stalocratic. I can do anything.
Posse, Derby, Macy. Pass my bag.
Radio Libre 89.4. Un peu d'air frais, l'atelier du documentaire. La cinéaste Mariam Cissé a réalisé un court-métrage de fiction sur l'exclusion des personnes atteinte de troubles mentaux dans son pays, la Guinée. Et à l'occasion du festival de cinéma LH Inde Film Festival, on a rencontré le producteur Diogo Barry pour une conversation autour de ce film avec Amanda et Rougi, nos envoyés spéciaux au Havre.
Bonjour Diogo Barry.
Oui, bonjour.
On est au Havre. Il y a eu un festival la semaine dernière qui s'appelait Le Havre Festival, c'est ça, court-métrage?
Ouais.
Et il y a un des courts-métrages qui s'appelle La couleur de l'esprit qu'on a vu et qu'on a beaucoup aimé. Tu es producteur de films qui ont été présentés. C'est quoi en fait l'objet de cette boîte de production?
Alors, ben, merci de m'avoir invité, alors, de donner la possibilité de discuter un peu sur nos productions. Alors, ce n'est pas une boîte de production en tant que telle, en tout cas telle qu'on la connaît d'habitude ici. Alors, peut-être la petite histoire, c'est que moi, depuis janvier 2021, j'ai décidé de, de rentrer partiellement en Guinée, venir investir en Guinée, et aider aussi les jeunes au niveau de la Guinée, parce que je voyais quand même pas mal de jeunes qui venaient ici. Il y avait beaucoup d'immigration, il y en a encore toujours. Donc j'ai su rentrer en janvier 2021, j'ai récupéré un espace qu'on appelle Sabutec, qui était à l'abandon, donc j'ai levé des fonds, et on a plusieurs projets, dont le projet de cinéma, parce que c'est de ça on parle ici. Alors le projet de cinéma, c'est un projet Sabu Ciné Talent, qui est affilié à l'association mère qui s'appelle Sabutec, dont l'objectif est de former, professionnaliser et d'équiper les acteurs de cinéma guinéens. Et du coup, c'est ce qui a donné les 8 films, dont le film La couleur de l'esprit.
Alors, La couleur de l'esprit, c'est un film qui parle de psychiatrie. Enfin, est-ce que tu peux nous dire, en fait, pourquoi cette réalisatrice, donc c'est Mariama Cissé, elle est partie sur cette thématique-là?
Alors d'après, je me rappelle encore qu'est-ce que j'étais le jour où on l'a recruté. En fait, je crois qu'elle a quand même une bonne histoire avec les fous. D'après ce qu'elle m'a dit, moi, qu'elle avait un ami fou et qui était avec elle au collège ou au lycée, je ne me rappelle plus. Et qu'elle a retrouvé 5-10 ans après. Et le fou l'a reconnu. Mais elle, même ici, hein, je ne vois pas beaucoup de fous ici parce qu'il voilà, y a quand même une infrastructure, ils sont dans les hôpitaux, mais là-bas, ce n'est pas comme ici. Donc, il y a beaucoup de fous qui se traînent dans la rue. Donc, le fou l'a reconnu, mais elle avait peur. Bah, comme on est vraiment éduqué en Guinée d'avoir peur de fous, donc elle a vraiment peur de ce monsieur. Et le monsieur continuait à le poursuivre, mais pas dans la violence, juste parce que c'était un ami à lui. Donc, je pense que l'idée lui est venue de là, de faire un film sur les fous. Donc voilà, elle a fait le scénario qu'on a bien aimé et elle a bien défendu aussi. Et donc la production, c'était pas facile parce que c'est un docu-fiction, si vous voulez, parce que le fou, c'était un homme normal, mais qui s'est tourné en comme si c'était un documentaire. Et voilà, on a bien aimé ça parce que ça remet vraiment en contexte des personnes qui sont complètement ignorées, complètement abandonnées en Guinée. Et je me rappelle encore l'ambassadeur qui nous a accordé le financement, il était en fin de mandat. Et donc le jour on n'avait même pas encore diffusé le film pour le grand public, et il est venu nous rendre visite. Donc j'ai choisi de lui faire voir ce film là je crois qu'il a eu les larmes aux yeux, parce qu'il m'a dit, moi j'ai fait 5 ans ici ou 6 ans, je ne sais plus, j'ai jamais vu ça, parce que c'est vraiment la vie d'un fou de 6h du matin à 20h. Comment il mange, comment il est traité dans la rue. Et je crois que toutes les personnes qui ont vu ce film ont eu quasiment la même réaction.
Moi, ça m'a quand même fait penser le film à Paris, à tous ces SDF aussi qu'on voit dans le métro et souvent qui sont atteints de maladies mentales. Après, c'est vrai qu'au Havre, il y a aussi un hôpital psychiatrique qui est pas très loin d'ici, et on peut voir justement les personnes se balader. Enfin voilà, on s'est questionné autour de ça aussi. Mais quel est le rapport des Guinéens à la folie alors?
Alors c'est un rapport assez étrange, parce que il y a un endroit qu'on appelle le cabanon. En gros, c'est l'espace où on garde les fous, quoi. C'est le nom, juste, c'est juste le nom. Je ne sais pas pourquoi ce nom-là a été donné. Et sur les milliers et des milliers et des milliers de personnes qui ont des problèmes mentaux, je crois qu'il y en a peut-être 20, 25, 30, 40 qui sont vraiment pris en charge. Donc c'est vraiment un phénomène. C'est un phénomène très, très préoccupant. Parce que c'est des personnes qui se retrouvent complètement abandonnées par la famille, par la société, qui se débrouillent, qui vivent vraiment selon ce qu'ils trouvent dans la rue. Ils mangent dans des poubelles. Alors, c'est encore des poubelles, encore très, très beaucoup. Est-ce qu'ils ont de l'expression dégueulasse par rapport aux poubelles qu'on a l'habitude de voir ici? Donc, je crois que c'est. En tout cas, l'objectif pour moi, quand j'ai choisi ce film-là, c'était vraiment aussi de sensibiliser sur ces questions-là, pour dire que voilà, c'est des personnes qui sont malades comme toute autre personne, qu'on peut soigner, et serait intéressant quand même qu'on s'en occupe et qu'on puisse voir si on peut trouver des solutions pour les aider à se faire soigner, tout simplement, quoi.
À un moment donné dans le film, il y a un jeune qui le fou, enfin je sais pas comment il faut l'appeler, lui réclame à manger, Il veut faire un jeu et puis la personne qui vend à manger lui dit non, il faut pas qu'il te touche. Ouais. Donc est-ce qu'il y a une dimension... D'ailleurs, on voit aussi à la fin du film qu'on lui dit qu'on lui a lancé un sort. Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous parler de cette dimension-là?
Oui, alors je crois que c'est souvent comme on ne cherche pas à aller à l'hôpital pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc il y a toujours ce côté un peu mystérieux, c'est la marâtre qui a été voir un marabout, qui l'ont jeté en sort parce qu'il y avait des héritages. Mais pour moi c'est juste des croyances quoi. Et je pense que, moi je ne crois pas du tout à ce genre de choses. Peut-être mais il y en a la plupart du temps en Guinée le croit. Dans la plupart du temps quand quelqu'un est malade mentalement, une personne qui a mal au ventre, à la tête, on l'amène à l'hôpital. Mais une personne qui a des problèmes mentaux, on dit que c'est un sort, on le laisse à lui-même. Je me rappelle encore un des jeunes qui était venu encore voir le film, qui était à la scène de sa boutique, le film n'était pas encore sorti, donc on l'a montré. Il a regardé, il a pleuré et il a appelé. Parce qu'il s'est rappelé qu'il y avait un ami fou qui habitait à côté de ses yeux quand il était jeune. Il a appelé la maman du fou devant nous, pour demander comment allait son enfant. Et la maman, elle a crié. Parce qu'elle a dit que c'est la première fois que quelqu'un l'appelle pour demander comment va son enfant.
Effectivement, il y a cette idée-là. On était aussi frappés du fait que certains pouvaient penser que la maladie mentale était contagieuse. C'est un autre aspect de la méconnaissance, en fait, de la maladie, en France aussi. Hein. Mmh. Est-ce que cette idée de contagion, vous l'avez aussi remarqué, c'est quelque chose qu'on... Des croyances aussi qu'on transmet aux enfants ou aux plus jeunes ou...
Oui, bien sûr, je pense que ça va de soi. Hein. Il y a aussi, par exemple, les albinos. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, quand tu vois un albinos, il faut courir, quoi. Il ne faut pas le toucher. Et on avait même des façons de faire parce que c'est un rejet total. Donc, quand une personne est rejetée, je pense que chacun trouve des explications, des raisons. Et avec le temps, ces raisons-là, ces préjugés-là deviennent des vérités. Et les petits qui grandissent, on leur dit ça, ils intègrent ça, alors qu'il n'y a rien de solide qui fonde ces idées-là. Donc, la plupart du temps, c'est des préjugés qui se perpétuent avec le temps, avec la génération. Moi, je me rappelle encore quand j'étais petit. Hein, moi, je suis né là, j'ai grandi là. Et quand on voyait un fou, soit tu le frappes, soit tu t'en éloignes. Et parce que c'est une personne qui est dangereuse. Et ça amène même à certaines personnes qui ont des problèmes mentaux à même être un peu violent, parce que eux-mêmes ils subissent de la violence. Donc quand à chaque fois que tu vois quelqu'un qui te tape, qui te cogne, donc à un moment donné lui aussi il développe une sorte de réflexe de défense, et du coup ça empire le scénario, parce que on dit il m'a agressé alors que lui il s'est fait agresser toute la journée. Donc quand il voit quelqu'un, il a l'impression que tout le monde l'agresse, parce que c'est devenu une culture nationale.
Alors c'est un petit court métrage,
il fait 19 minutes.
Ah, d'accord. Et on peut le voir?
Oui, on peut le voir sur Djoliba TV. Djoliba TV, c'est une plateforme qu'on a mis en place récemment. Il y a une application Android, mais aussi iPhone, qui permet de pouvoir... l'idée pour nous, c'est de pouvoir donner la possibilité aux personnes de pouvoir voir ces films-là gratuitement. Donc, vous téléchargez l'application Djoliba TV avec Djoliba D-J-O-L-I-B-A TV collé. Vous allez retrouver sur l'App Store, vous téléchargez, vous allez voir tous les films. Il n'y a pas que celui-là, il y en a encore d'autres que vous pouvez voir gratuitement.
Et donc, je rappelle qu'il faut s'inscrire d'abord pour pouvoir accéder à tous ces films. Et toi, comment t'en es venu à faire de la production? Est-ce que t'as réalisé aussi des films?
Moi, j'ai jamais réalisé de films. Moi, j'ai beaucoup étudié, dont, de par le passé, au Havre d'ailleurs, un master ingénierie touristique et culturelle. Je me faisais un peu... J'avais beaucoup de temps, je me dis je vais m'inscrire. Et du coup, c'est là que j'ai découvert vraiment le monde du cinéma, le monde de la culture. Pour le moment, mon travail consiste à aller chercher de l'argent, mettre en place des infrastructures, de permettre aux personnes de pouvoir travailler.
Merci beaucoup.
Merci. We'll be right back.
chers compatriotes, si vous voulez voir le film La couleur de l'esprit, vous allez bien sûr trouver le lien sur notre site airfray-radio.fr et on vous conseille de le faire à toute urgence. Voilà, voilà, c'est fini. Merci à tous et à bientôt à notre prochaine édition qui aura lieu le 6 juillet. Au revoir.
Voilà, c'est fini. Merci à tous. Merci la vie. À mort la mort et à demain. Voilà, c'est fini.
Je suis fou de toi.
Merci à tous. Merci la vie. À mort la mort et à demain.
Des chansons pas bidons.